Vous êtes sur RTL.
Confinement avec un nouveau visage, avec Yves Calvi. Bonjour Yves.
Merci cher Julien, bon week-end à vous et à toute l'équipe des Petits Matins. Bonjour à tous. La formule est de notre camarade Sophie Orange et elle plante bien le décor. Le gouvernement a donc inventé le confinement au grand air. Il concerne désormais 21 millions de Français, 16 départements et nous allons vous donner tous ces détails avec Sophie dès 7h15. En tout cas, nous repartons pour 4 semaines. Dès 7h40, c'est le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui viendra expliquer le concept du freiner sans enfermer. Au micro d'Alba Ventura. Depuis le début de la pandémie, la pénurie a toujours fait la doctrine. Il sera donc intéressant d'entendre aussi notre monsieur vaccin, Alain Fischer, à 8h20. Retour sur la crise AstraZeneca et nous lui demanderons son avis sur les perspectives rassurantes évoquées par le Premier ministre. Je vous rappelle les trois chiffres. 10 millions de vaccinés mi-avril, 20 millions mi-mai et 30 millions de Français au début de l'été. Si tel est le cas, la France aura déjà largement réussi son opération vaccinale en dépit de tous les scepticismes. Nous sommes le vendredi 19 mars 2021. Très bonne journée à tous. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Une troisième vague, un troisième confinement, c'est reparti pour 4 semaines minimum.
16 départements, 21 millions de Français concernés, mais des règles qui changent, plus souples diront certains, et un couvre-feu national repoussé à 19h. Troisième fermeture pour les commerces jugés non essentiels en un an, partagée, vous l'entendrez, entre colère et résignation. Après 3 jours de suspension, l'AstraZeneca de retour en pharmacie et chez les médecins, le gouvernement promet 10 millions de vaccinés d'ici la mi-avril, 20 millions tous les plus de 50 ans d'ici la mi-mai. Et puis parce qu'on a plus que jamais besoin de se projeter, on évoquera le Tour de France. Départ dans 100 jours, le compte à rebours est enclenché.
La politique, Olivier Bost.
Et avec ce matin, comme l'impression qu'on nous prend pour des confinés, sans nous le dire franchement.
On se retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Un Français sur trois sera donc reconfiné à partir de ce soir minuit et ce pour 4 semaines au moins, donc jusqu'au lundi 19 avril. 16 départements concernés, les 8 de la région parisienne, les 5 départements des Hauts-de-France ainsi que les Alpes-Maritimes, l'Eure et la Seine-Maritime. Au total, 21 millions de personnes pour qui les déplacements seront donc limités dès demain. Alors comme lors des deux premiers confinements, eh bien certains ont décidé de fuir les départements rouges pour rejoindre les zones encore épargnées. Résultat, la quasi-totalité des TGV au départ de Paris sont complets. Gauthier Delon-Bugard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la gare Montparnasse à Paris, vous l'avez constaté, les trains sont pris d'assaut.
Absolument, avec une foule pour embarquer très tôt dans les trains, notamment Voie 9, le TGV de 6h08 direction Bordeaux.
Bon, qu'est-ce qui va se passer pour vous là? Vous fuyez Paris?
Ah ouais, c'est un peu ça, on est resté autant le premier confinement, on est resté un peu sage, mais là on se dit qu'un mois en plus c'est pas possible. Ouais, télétravail à 100%, ça va pas changer finalement de ce qu'on connaît actuellement.
À la campagne, comme ça on peut aller jouer au tennis et au golf et pouvoir manger dehors quand on veut.
C'est vrai qu'on s'attendait à être confiné le week-end, mais je pense qu'on s'attendait pas à un reconfinement total.
Alors je m'appelle Charles et je suis fonctionnaire. Je suis en train d'attendre un train pour aller à Nantes et pour aller en Bretagne par la suite. On a pris le dernier train qui était disponible, donc le premier train en fait de la journée. Parce que pour nous c'était très compliqué de rester dans un appartement à deux de 40 mètres carrés. On a une maison familiale donc à Bénodet. On va s'installer là-bas pour avoir un peu plus d'espace pour nous trois.
Trois parce que le troisième c'est le chat.
C'est le chat, exactement. Le chat qui a besoin aussi de sortir un peu, d'avoir un peu plus d'air que ce qu'il a eu jusqu'ici à Paris.
Le chat, prénommé Azriel, sera obligé de rester dans sa caisse sous le siège pour ce voyage puisque le train est bondé. La Bretagne, Nantes, Bordeaux, les TGV vers l'ouest sont désormais quasiment tous complets.
Merci Gauthier Delon-Bugard. Si on s'en va, c'est pour le chat. Ça, c'est
oui.
Une bonne excuse.
C'est charmant.
Arnaud Touche avec nous en studio. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Un rappel sur les règles. Il est donc possible de s'échapper jusqu'à ce soir. Demain, ce sera trop tard.
Effectivement. Et les contrôles seront nombreux dès demain matin dans les gares, aéroports et péages. La règle est claire. Si vous habitez dans un département confiné, vous ne pouvez pas le quitter sauf raison impérieuse. Par exemple, vous ne pouvez pas vous rendre à Metz depuis Paris, sauf si vous avez un motif particulier et il faudra le justifier et cocher sur l'attestation. De Metz à Paris, ce sera pareil. Alors forcément, certains d'entre vous avaient déjà acheté leur billet de train, bien sûr. Bonne nouvelle, la SNCF a décidé hier soir de rendre tous les billets de TGV, Ouigo, Intercité et TER en correspondance, échangeables et remboursables sans frais avant le départ, et ce jusqu'au 19 avril.
Merci Arnaud Touche. On le rappelle, en cas de non-respect du confinement, le montant de l'amende est toujours fixé à 175 euros par personne.
7h04, nouveauté en revanche pour ce confinement, formule inédite, il sera possible de s'aérer toute la journée.
Ou de sortir, pratiquer un sport dans un rayon de 10 km autour de chez soi, et ce sans limitation de durée. Concernant Les commerces, les supermarchés restent ouverts comme lors des précédents confinements. Ce sera le cas aussi cette fois pour les librairies et les vendeurs de disques qui entrent dans la catégorie des commerces dits essentiels. Pour tous les autres magasins, fermeture obligatoire dès ce soir et pour 4 semaines minimum. Se faire couper les cheveux n'est toujours pas considéré comme un besoin essentiel. Les coiffeurs vont donc pour la 3e fois en un an devoir baisser le rideau. Christophe Doré, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure.
Sincèrement, c'est violent. Ça va être très, très, très dur économiquement, parce qu'on avait déjà les centres commerciaux qui étaient fermés depuis de nombreuses semaines. On avait déjà ceux qui étaient confinés le week-end. Et là, d'un seul coup, du jour au lendemain, fermé, c'est de nouveau un coup d'arrêt. C'est un coup dur, hein, donc je suis un peu abasourdi, très clairement.
Un propos recueilli par Armel Lévy. Concernant les crèches, les écoles et les collèges, les établissements resteront ouverts, les lycées, eux, basculeront en demi-jauge et les règles restent inchangées concernant les universités. Freiner l'épidémie mais ne pas enfermer les Français, c'est donc le nouveau concept du gouvernement qui fait le pari que ces mesures permettront, d'ici la mi-avril, d'améliorer la situation. 4 semaines, un délai un peu court pour l'épidémiologiste Philippe Amoyel du CHU de Lille.
À partir du moment où on lance le confinement, il faut attendre 2 à 3 semaines pour qu'on commence à voir les courbes freiner. Puis ensuite, on a une baisse, et c'était vrai pour le premier et le deuxième, de l'ordre de 30 à 40% par semaine qui vont s'additionner. Et donc, normalement, en 5 à 6 semaines, on devrait arriver au bout pour vraiment avoir une diminution de la pression. C'est-à-dire que si on dit qu'il faut sortir encore à 10 000 cas positifs, donc ce sera plus court. Mais ce qui serait bien, c'est d'en profiter pour baisser le taux de contamination en France.
Philippe Amoyel, épidémiologiste, invité hier soir de Thomas Soto, qui table donc plutôt lui sur un confinement, vous l'aurez compris, de 5 à 6 semaines.
Quelques réactions politiques pour terminer, dans l'ensemble sévère avec le chef de l'État.
Emmanuel Macron accusé ces derniers jours d'avoir sous-estimé les prévisions alarmistes des scientifiques et d'avoir tenté seul un pari risqué. Pour Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, dont le département dès demain sera confiné 7 jours sur 7, cette nouvelle étape marque l'échec personnel du président.
Nous payons au prix fort les erreurs d'analyse, d'anticipation, les fautes d'Emmanuel Macron, qui en janvier n'a pas pris les bonnes décisions. Le conseil scientifique lui-même, dans un avis tenu secret pendant plus d'un mois, avait demandé, avait alerté pour dire si nous n'agissons pas, les variants vont nous submerger et nous aurons des dizaines de milliers de morts. Ben nous y sommes. Nous avons perdu 2 mois et nous sommes contraints ce soir avec une forme de panique à recourir à nouveau à ce confinement alors que d'autres pays en sortent. Et je le dis, c'est l'échec personnel d'Emmanuel Macron.
Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. Le coût, parce que forcément ces mesures, elles ont un prix. 1,2 milliard d'euros supplémentaires pour les finances publiques, c'est ce qu'a d'ores et déjà indiqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et puis l'amende en cas de non-respect du confinement sera de 135 euros et non pas 175, pas encore.
Mais vous, ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous vouliez nous taxer, c'est incroyable. L'espoir tout de même, c'est le vaccin, vous le savez, et le retour dès aujourd'hui dans les pharmacies, notamment de l'AstraZeneca. C'est une excellente nouvelle, on y revient dans un instant sur RTL. Bonne journée à tous, il est 7h07.
RTL Matin.
Il est 7h08, différence de taille et fort heureusement avec les confinements précédents. Le gouvernement dispose désormais d'un vaccin et même d'ailleurs de 3 vaccins.
Et bientôt de 4 avec le Johnson & Johnson attendu normalement le mois prochain. 10 millions de Français vaccinés d'ici la mi-avril, objectif hier soir rappelé par Jean Castex. 20 millions d'ici la mi-mai, soit toute la population volontaire de plus de 50 ans. Après avoir été suspendu lundi, les injections d'AstraZeneca vont pouvoir reprendre dès aujourd'hui. Car l'Agence européenne du médicament a donné hier sans surprise son feu vert à Gatlandé.
Oui, car c'est un vaccin sûr et efficace, a conclu l'Agence européenne du médicament. Selon ses experts, le bénéfice, la protection contre le Covid apportée par ce vaccin dépasse largement les risques d'effets secondaires. L'Agence européenne affirme qu'il n'augmente pas les risques de développer une thrombose ou des caillots sanguins. En revanche, la notice du vaccin, elle, va être modifiée. Elle mentionnera désormais ses très rares cas d'effets secondaires qui concernent en majorité des personnes âgées de moins de 55 ans et qui souffrent déjà d'un défaut de plaquettes sanguines. Ce matin, la Haute Autorité de Santé en France va elle aussi valider une dernière fois ce vaccin pour que les pharmaciens et les médecins puissent recommencer les injections dès cet après-midi. Mais l'exécutif a conscience que cette pause dans la vaccination avec AstraZeneca aura quand même écorné l'image du vaccin. Alors pour tenter de donner confiance, le Premier ministre ira se faire vacciner lui-même sous l'œil des caméras dès cet après-midi.
Agathe Landé.
Dans le reste de l'actualité, il y a du sport et une nouvelle date pour la rencontre entre le 15 de France et l'Écosse.
Oui, ce sera le 26 mars prochain au Stade de France. La rencontre du tournoi Destination qui devait initialement se disputer le 28 février dernier avait été reportée après la découverte d'un cluster au sein des Bleus. En football, Ousmane Dembélé rappelé par Didier Deschamps en équipe de France de foot en vue des qualifications pour le Mondial 2022. Trois rendez-vous d'ici la fin du mois face à l'Ukraine mercredi prochain, Kazakhstan le 28 et enfin face à la Bosnie le 31 mars. Et puis le Tour de France, ah oui, l'une des rares compétitions sportives miraculées l'an dernier. Alors elle a certes été décalée à la fin du mois d'août. Cette fois, le départ est programmé le 26 juin, soit dans 100 jours. Et à cette occasion, un maillot jaune géant de plus de 7 mètres a été installé sur la façade de l'hôtel de ville de Brest, qui sera la ville de départ de cette course, que tout le monde espère cette année la plus normale possible, Nicolas Georgerot.
Oui, un tour pour repartir, une grande boucle pour arrêter de tourner en rond, c'est le souhait du président de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard.
Ça va relancer la machine, ça va relancer le moral de tous. Ce Tour de France marque, je l'espère, le redémarrage du bruit en Bretagne. C'est nos stades, c'est le Tour de France et c'est bien entendu nos bagades et nos festivals en fonction du contexte que vous connaissez.
Dans 100 jours, le public pourra-t-il être au bord de la route? François Cuyandre, le maire de Brest, un brin agacé, ne veut pas envisager de plan B pour le moment.
Pourquoi voulez-vous que je réponde à cette question? J'en sais rien. Moi, je suis optimiste par nature. Donc je pense que la montée en puissance de la vaccination, tout ça va faire que normalement, je l'espère, dans 100 jours, eh bien, on pourra avoir une fête normale. C'est en tout cas l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et encore une fois, moi je ne lis pas dans le bar de café. Hein.
Des spectateurs qui seront difficiles à décourager sur une terre de vélo, estime le quintuple vainqueur de l'épreuve, Bernard Hinault.
Les gens sont au bord de la route, c'est comme ça. Comme ça s'est fait sur le Tour l'an dernier. Hein. Mais il faudra que les gens soient responsables et mettent un masque, comme ça il n'y aura pas de souci.
Et pour Christian Prudhomme, le patron du Tour, l'épreuve s'élancera bien à la date programmée, le 26 juin.
Espérons-le, Nicolas. Georgerot.
On va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Enghien-Soisy.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 8, le 6, le 7, le 9, le 14 et le 11. La dernière minute, c'est le 6, comptez des titets.
Le journal de 7h nous était proposé par Dominique Tenza. Il est 7h12, la politique avec vous Olivier Bost.
Bonjour Yves.
Bonjour à vous. Ce matin Olivier, vous avez le sentiment qu'on nous prend pour des confinés?
Oui.
J'ai bien con... en un seul mot, je l'ai mis. Hein. Oui. Sans arriver à nous le dire franchement.
Oui, en un seul mot, puis vous ne trompez pas d'une lettre non plus.
Non.
Déconfinés donc à qui on ne dit pas qu'ils sont confinés. C'est ça ce qui s'est passé hier soir et ça concerne un Français sur trois. Les autres sont encore sous couvre-feu et ça peut aussi leur arriver. Jean Castex a fait l'économie du mot, ne parle qu'une fois de mesures de confinement, puisque la nouvelle formule, ce sont les mesures de freinage. Il ne parle pas de confinement en nous décrivant une nouvelle période qui ressemble pourtant fortement. Le fameux concept du fermé sans enfermer. Enfin, pour être tout à fait franc, le gouvernement nous a surtout embrouillés comme jamais. Même dans les ministères hier soir, certains se disaient que c'était bien compliqué tout ça. Jean Castex a rajouté deux couches de complexité alors que ça n'était déjà pas très simple. Le mode d'emploi des mesures de freinage va bientôt ressembler à un formulaire de préfecture. Plutôt que de nous expliquer la situation, simplement, puis de détailler ces situations, Jean Castex hier soir a un peu tout mélangé en rajoutant des auto-justifications et, sur les vaccins notamment, de l'auto-satisfaction un peu décalée.
Pourquoi pensez-vous que ce soit décalé?
Parce que nous ne savons plus très bien si la situation est grave, très grave ou moyennement grave. Avec la souplesse, le droit de sortir et puis avec la dureté, les magasins fermés, week-end compris. Même Olivier Véran, le ministre de la Santé, semble décontenancé. Je ne sais pas quel nom il faut donner à ces mesures fortes qui sont prises, a-t-il avoué hier soir. Et si nous appelions ça un confinement? Non, le message n'est pas d'une clarté absolue, alors qu'il aurait pu se résumer en deux lignes. Sortez dehors, n'invitez plus d'amis, nous vous faisons confiance pour y arriver. Ça aurait été simple, mais le gouvernement n'a pas pu s'empêcher d'en revenir à ces fameuses attestations. Cette invention française qu'il est inutile de déposer, hein, pas besoin de brevet, personne ne va nous la voler.
Mais la seule chose qui compte à l'arrivée, c'est de savoir s'il y aura des effets sur l'épidémie, non?
Oui, alors surtout que nous en avons pris pour un mois, hein, minimum, et jusqu'ici, tous les délais qui ont été donnés ont toujours été rallongé, je vous le rappelle. Le message mi-alarmiste, mi-rassurant d'hier soir rend son succès assez aléatoire, donc méfiance. Comme il faudra se méfier la prochaine fois qu'on nous expliquera que les scientifiques se trompent et que le président est devenu le premier des épidémiologistes, il ne faudrait pas que ce sentiment que l'on nous prend pour des confinés, sans nous le dire, s'installe vraiment.
Merci beaucoup Olivier Bost. Tout à l'heure, Alba Ventura, je vous le rappelle, reçoit Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Et on a évidemment beaucoup de questions à lui poser après les annonces d'hier soir. Dans un instant, notre brigade de l'actualité va nous aider à y voir plus clair dans ces annonces. Que peut-on faire et à contrario, que ne pouvons-nous plus faire avec ces restrictions? Nous serons aussi en ligne avec Johan Petiot de l'Alliance du Commerce.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h17, une nouvelle vie va donc se mettre en place dans 16 départements de France, 21 millions d'habitants. Un confinement plus léger qu'en mars, mais des restrictions quand même. Grâce à notre brigade RTL, on va décrypter et analyser les annonces et les affirmations du Premier ministre pour distinguer le vrai du faux. Un confinement où peut-on, où on peut rester dehors toute la journée. C'est un vrai confinement, vrai ou faux? Qu'en dites-vous puisque maintenant, il faut absolument faire le point, Sophie Orange.
Alors, deux façons de répondre. C'est vrai, oui. Ce n'est pas un confinement. Pour provoquer, on pourrait même dire que c'est un allègement. Puisqu'on peut sortir une heure de plus, le couvre-feu passe de 18h à 19h. Contrairement au mois de novembre, on peut sortir sans limite de temps et donc multiplier les contacts toute la journée. Mais à l'opposé, c'est un confinement quand même. Un tiers des Français ne peut pas se déplacer au-delà de 10 km, c'était 20 km en novembre. Il faudra à nouveau une attestation, les petits commerces sont fermés et le soir, on doit rester chez soi. C'est donc, on pourrait dire, un confinement au grand air, qui repose sur des bases scientifiques. Le risque de contamination est beaucoup plus faible dehors que dedans, à condition de respecter les 2 mètres de distance quand on enlève le masque.
Bien sûr. Jean Castex a insisté pour dire que le gouvernement avait bien fait de ne pas suivre les modèles dits de janvier, sinon on aurait été confinés 3 mois. Vrai ou faux?
Tous les médecins vous disent que c'est faux, et les épidémiologistes ont dû bondir en écoutant cela. D'ailleurs, les modèles avaient prévu cette courbe exponentielle de mars. En janvier, plusieurs experts avaient indiqué que si on confinait strictement pendant un mois, on serait arrivé à 5000 nouveaux cas par jour, 50 morts par jour. Ensuite, les courbes seraient reparties à la hausse à cause du variant anglais, mais de beaucoup plus bas, si vous voulez. Il reste persuadé qu'un confinement précoce aurait été efficace et pas forcément très long. Donc, ce n'est pas vrai de dire qu'un confinement en janvier aurait duré 3 mois. Et c'est ambitieux d'affirmer que ce confinement hybride, qui commence ce soir à minuit, va durer 4 semaines. Tout dépend, dans tous les cas, une fois encore, de nos comportements.
Autre vérification sur la vaccination. Le Premier ministre indique que notre rythme quotidien de vaccination est l'un des plus élevés d'Europe. C'est vrai ou c'est faux?
Vrai, selon un site de référence sur la vaccination dans le monde, la France est même le premier pays d'Europe, avec une vitesse de croisière de 200 000 injections en moyenne par jour. On a dépassé l'Allemagne il y a environ un mois. En nombre de doses injectées cette fois depuis le début de la campagne, plus de 8 millions en France, donc qui est en deuxième position en Union européenne. Derrière l'Allemagne, 10 millions de doses, devant donc l'Espagne, l'Italie qui avaient démarré très fort leur campagne de vaccination en janvier. La France a donc rattrapé son retard. Elle est au niveau de la moyenne européenne, mais toujours très très loin d'Israël et des États-Unis. Et en Europe, de toute façon, on pâtit toujours d'un manque de doses.
Merci beaucoup Sophie Orange de notre brigade RTL. Bonjour Johan Petiot.
Bonjour Kali.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur général de l'Alliance du Commerce, qui réunit en fait nos grands magasins, les enseignes de l'habillement, de la chaussure. Quel est votre sentiment ce matin? C'est de l'incompréhension, de la colère?
Écoutez, ce sont les deux. Colère parce que c'est un nouveau coup de massue que nous avons reçu hier soir de la part du Premier ministre et de ses annonces, avec une fermeture 4 semaines en plus, une fermeture stricte dans ces 16 départements. Il faut bien se rendre compte que pour ces commerçants qui sont touchés, certains sont déjà fermés depuis le 31 janvier, et ils ont déjà subi 3 mois et demi de fermeture l'année dernière. Sur 15 mois, nous aurons été fermés 5 mois. Un jour sur 3. Je ne comprends pas que le gouvernement ne comprenne pas qu'il y aura des conséquences économiques et sociales majeures à cette nouvelle fermeture.
Vous avez découvert ces annonces en direct en écoutant le Premier ministre ?
Oui, bien sûr, il n'y a eu aucune concertation préalable à l'annonce de ces mesures.
Ce qui veut dire que vous n'avez pas été consulté ?
Non.
Comment réagissez-vous ?
Avec incompréhension, parce que vos journalistes l'ont très bien dit, le Premier ministre annonce un relâchement, les écoles restent ouvertes, le couvre-feu gagne une heure de plus, les règles dans les églises sont inchangées, nous pouvons sortir tel que nous le voulons. Il encourage même à prendre les transports parce qu'on y porte le masque, et à l'inverse, les seuls pour qui les règles sont plus restrictives sont les commerces, sans aucune raison, alors même que l'Institut Pasteur a prouvé dans une nouvelle étude sortie il y a une semaine qu'ils n'étaient pas des lieux de contamination. Donc incompréhension et colère, parce qu'il n'y a véritablement eu aucun mot de soutien, d'empathie pour les dizaines de milliers de commerçants qui vont devoir à nouveau fermer leurs portes à partir de samedi matin pour 4 semaines. Mais rien ne dit aujourd'hui que ça ne durera que 4 semaines.
Alors le porte-parole du gouvernement, je le rappelle, sera avec nous à 7h40 au micro d'Alba Ventura, bien entendu. La question lui sera posée. Est-ce que vous nous dites ce matin, d'une façon ou d'une autre, que ça risque d'être un coup de grâce pour un certain nombre de commerçants qui étaient déjà, par définition, là aussi, fragilisés par l'année que l'on vient de vivre et que vous nous avez décrite?
Bien sûr. Bien sûr que ça le sera. Dans notre secteur, en 2020, nous avons fait moins 20% d'activité. À la fin du mois de février, nous étions déjà à moins 22% d'activité et certains n'ouvrent toujours pas leurs portes. Donc bien sûr, il y aura des conséquences économiques et sociales. Et puis, il faut le dire, il y a eu beaucoup d'annonces de la part du gouvernement en matière d'aide, oui. Mais aujourd'hui, très peu ont été versées. Bien sûr, il y a eu le fonds de solidarité pour toutes les entreprises indépendantes, les TPE, mais pour toutes les entreprises en réseau, et notamment celles que je représente, hormis l'activité partielle, aucune aide financière n'a pour le moment été versée. Et nous attendons encore beaucoup de précisions sur ces sujets-là. Donc, c'est vrai qu'à l'issue de la déclaration hier du Premier ministre, nous sommes en colère, abasourdis, nous ne comprenons pas ces nouvelles restrictions qui, finalement, ne touchent que le commerce.
Yoann Petiot, excusez-moi, je reviens là-dessus. Vous n'avez pas de précision pour l'instant ou d'appui sur des aides fixes, précises, au moment où nous parlons?
Il y a eu beaucoup de déclarations. Nous connaissons le fonds de solidarité. Il y a eu des déclarations sur un deuxième dispositif d'aide qui est la prise en charge des coûts fixes, qui a été annoncé il y a plusieurs semaines par Bruno Le Maire. Il y a eu des communiqués qui ont été faits, mais aujourd'hui, aucun décret d'application n'est sorti. Elle n'est pas encore en œuvre concrètement. Puis il y a un troisième dispositif d'aide qui devait être mis en place pour les magasins fermés dans les centres commerciaux. Les discussions commencent à peine. Donc l'aide ne sera véritablement appliquée que dans plusieurs semaines. Donc il faut bien se rendre compte que ces entreprises qui sont fermées maintenant depuis plus de 5 mois, depuis 1 an, ont reçu très peu d'aide.
Un nouveau coup de massue, c'est la première expression que vous avez employée pour qualifier la situation pour nos commerces sur l'antenne d'RTL. Merci beaucoup, Yoann Petiot. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Alliance du Commerce. Bonne journée à vous, en dépit de ces difficultés que vous venez de décrire. Dans un instant, notre pépite musicale avec Anthony Martin, ça va nous faire beaucoup de bien. Tout de suite, Anthony.
À tout de suite.
RTL Matin. Yves Calvi.
Il est 7h25, bonjour Anthony Martin.
Bonjour et bonjour à tous.
C'est l'heure de notre pépite musicale quotidienne, on vous écoute.
Alors en 1969, Jacques Dutronc continuait de secouer le cocotier de la chanson française et de dérider le public avec son 4e album qui s'ouvrait sur la chanson intitulée « Le responsable », un mot à la mode. Un rock imparable et un petit bijou d'ironie signé Jacques Lanzmann. Dutronc chantait avec le sourire en coin « J'aime les emmerdements et comme je suis un homme responsable, ben je m'y tiens ». Dutronc est devenu un modèle pour beaucoup, il est aujourd'hui l'idole d'un artiste qui n'était pas né à l'époque. Un compositeur et interprète qui est à la fois rock et mélodiste doué, il s'agit de Gaëtan Roussel. En 2015, l'ancien leader du groupe Louise Attaque a enregistré sa version de la chanson Le Responsable. C'est notre pépite du jour, Le Responsable de Dutronc par Gaëtan Roussel.
J'ai des ennuis, j'ai des tracas, j'ai des tourments, j'ai pas le moral, j'ai pas d'argent, j'ai pas de chance, j'ai pas d'amis. J'ai pas de peau, j'ai des impôts, j'ai mal au foin, j'ai mal aux dents, mais je veux pas changer de peau parce que j'aime les emmerdements. Je l'abats comme du petit lait. Ce que j'aime le plus, c'est le mauvais sang. Je m'en repère à tout bout de champ.
Ça lui revient, hein? Gaëtan Roussel, Le Responsable. On trouve cette version sur l'album Joyeux Anniversaire Monsieur Dutronc. Il y a 5-6 ans, Gaëtan Roussel et Jacques Dutronc, qui n'arrêtaient pas de l'appeler Kader Roussel,
bien sûr, oui.
Courir, bien sûr, évidemment, avaient commencé à travailler ensemble sur des chansons inédites pour un album de Dutronc. Le projet n'a finalement pas vu le jour. Il existe un enregistrement qui n'a encore jamais été dévoilé. Gaëtan Roussel m'avait confié il y a peu de temps qu'il l'écoute très souvent et que c'est beau. Alors j'espère qu'un jour on le découvrira.
Merci beaucoup Anthony, on se dit à lundi pour une nouvelle série de pépites et on retrouvera donc Gaëtan Roussel tout à l'heure à 9h, il sera l'invité avec Stephen Bellery de notre Laissez-vous tenter. On découvrira les chansons de son nouvel album qui sort donc aujourd'hui même. Les grosses têtes vous donnent rendez-vous de 15h30, moi je veux bien vous rajouter une heure, hein, de 15h30 à 18h. Reconnaissez-vous et connaissez-vous d'ailleurs le secret de Christine Bravo? C'est le repos.
Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que dormir? En plus, je souhaite...
Vous voulez des idées?
je m'occupe du marin et je dors. En général, je m'occupe du marin d'abord parce que ça le fait dormir tout de suite.
Donc tu lui parles.
Vous avez remarqué, ça c'est un truc bizarre. Une femme après l'amour, elle peut lire, elle peut manger. Non. Le mec après l'amour, il dort.
Mais non, mais ça c'est un cliché.
Ah non, le mec après l'amour, il rentre à la maison.
Ah ouais. Ou il donne 50 euros.
Il te demande comment tu t'appelles.
Vous, Elie Moon,
oui.
Votre copine belge, là, elle, oui. elle dort pendant.
Non.
Et pour l'émission inédite du jour, rendez-vous dès 15h30 avec Caroline Diamant, Jean-Jacques Perroni, Jérémy Ferrari, Ariel Dombal, Valérie Mérès et Valérie Trierweiler. Bonjour Louis Bodin.
Bonjour Yves.
On compte sur vous pour nous donner des bonnes nouvelles, je ne sais pas si c'est le moment.
Ouais, bon, c'est un peu l'hiver quand même ce matin, hein, parce que je vois, il neige un peu en pleine, là, du côté de la Lorraine, sur l'Alsace, hein, comme prévu, quelques flocons.
Vous l'aviez annoncé.
Comment ?
Vous l'aviez annoncé.
Oui, c'était annoncé, oui, voilà, ça se vérifie autour du Massif Central également, on a de la pluie dans le sud-ouest, donc encore beaucoup de nuages, mais vous avez raison, cet après-midi quand même, je vais remettre de la lumière, notamment au nord d'une ligne Bordeaux-Metz, vous voyez dans cette diagonale, au nord, ça y est, c'est le retour cet après-midi d'un temps sec et ensoleillé en Île-de-France, Bretagne, Val-de-Loire, en allant vers la frontière belge, tout ça poussé par une petite bise, un petit vent de nord-est qui sera désagréable, mais au moins on va avoir du soleil. Plus à l'est et dans le sud, là on conservera un ciel un peu plus hésitant. On aura aussi des éclaircies, hein, moins de pluie que ce matin, notamment dans le sud-ouest, mais encore quelques passages nuageux, encore quelques averses sous forme de pluie ou de neige, notamment près des Pyrénées. Le vent soufflera fort près de la Méditerranée où là aussi on aura un petit risque d'averse. Et puis côté température, donc des gelées hein, ce matin du Massif central au nord et au nord-est, entre 0 et moins 1 degré, c'est légèrement positif ailleurs. Donc des températures hivernales et cet après-midi, 7 à 9 degrés seulement dans la moitié nord, c'est quand même 4 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison, 10 à 13 degrés seulement, si je puis dire, de l'Aquitaine à la Méditerranée, où là aussi il en manque.
Donc, si j'avais des radis, il faudrait que je vérifie.
Ah oui, c'est ça.
Ça tombe bien, je n'en ai pas. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 19 mars. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est le retour de l'AstraZeneca. La vaccination va reprendre dès cet après-midi. Le vaccin est sûr et efficace, voilà ce qu'a dit l'Agence européenne du médicament hier. Il ne faut pas avoir peur, insiste Stéphane Pichon. Il est président de l'Ordre des pharmaciens des Bouches-du-Rhône.
Tous les ans en France, on a 15 000 personnes qui sont victimes d'accidents de thrombose. Ça fait partie du quotidien d'une population. Donc on est vraiment en deçà d'un risque de population globale. Ensuite, c'est normal qu'on ait suspendu le vaccin pendant un certain temps, parce que quand on doute, il faut lever le doute. Mais c'est pour tous les produits pareils. L'Agence européenne du médicament a stipulé que ce vaccin était efficace. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui en France ? Covid, 90 000 morts, vaccin zéro. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question.
Propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. La polémique sur le vaccin AstraZeneca a laissé des traces. Seuls 44% des Français sont prêts à se faire vacciner avec ce produit. C'est ce que nous apprend le baromètre politique BVA pour RTL et Orange. Pour montrer l'exemple, le Premier ministre se fera vacciner dès aujourd'hui.
Jean Castex qui a donc annoncé hier de nouvelles restrictions dans 16 départements.
L'Île-de-France et les Hauts-de-France, mais aussi la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Un tiers des Français va se retrouver à nouveau sous cloche dès ce soir minuit et pour un mois. Mais cette fois, il s'agit de freiner sans enfermer, c'est ce que dit le Premier ministre. Mmh. Ainsi, les écoles et les collèges vont rester ouverts, mais les lycées devront tous fonctionner en demi-jauge. Les sorties sont limitées à 10 km autour de chez soi avec une attestation, mais leur durée ne sera pas limitée. En revanche, les déplacements entre régions sont interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels. Seuls les commerces de première nécessité vont rester ouverts, c'est-à-dire les commerces alimentaires mais aussi les pharmacies, les librairies aussi désormais. Les magasins de vêtements ou les coiffeurs, eux, vont de nouveau devoir baisser le rideau et certains rayons des grandes surfaces seront bâchés. Confinement donc 7 jours sur 7, plus le couvre-feu. Immédiatement, les réservations SNCF ont bondi. Plusieurs trains au départ de Paris affichent complet ce matin. Et sans attendre les détails, certains ont déjà pris le large. Il y avait du monde dès hier soir en gare Dorée dans le Morbihan. Et parmi les passagers, Stéphane, informaticien en télétravail depuis un an.
Autant passer un petit peu de temps au vert et voilà, avoir la possibilité de s'oxygéner un peu loin de la capitale confinée. C'est une résidence secondaire que j'ai achetée entre les premiers confinements et le deuxième confinement. Voilà, parce que j'imaginais bien que cette situation allait perdurer un certain temps. Et du coup, bah, comme un certain nombre de personnes, on s'est un peu jeté sur les maisons.
Un télétravailleur parisien au micro RTL de Nicolas Bobby. Notez que tous les trains vont circuler comme prévu dans les prochains jours. Par ailleurs, jusqu'au 19 avril, tous les billets TGV Intercité ou TER en correspondance seront échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment. De fait, le gouvernement veut mettre le paquet sur le télétravail. Au moins 4 jours sur 5, dit Jean Castex, qui demande une vigilance particulière sur les risques de contamination au travail. Le protocole sanitaire devrait être sérieusement renforcé, notamment dans les restaurants d'entreprise. La surprise du chef, oui, c'est que ces nouvelles mesures ne concernent pas que la région parisienne et les Hauts-de-France. En Normandie ce matin, c'est la consternation. Écoutez ce député de Seine-Maritime, Sébastien Jumel.
Je suis scotché, estomaqué, parce qu'il faut allumer sa télé pour découvrir à quelle sauce on va être mangé. Moi, j'avais tenté dans la journée, auprès de la préfecture, de la sous-préfecture, de savoir si la Seine-Maritime était concernée. Personne ne savait. L'appréhension que j'ai, c'est que la vie soit amputée et que ce gouvernement technocratique soit incapable de nous proposer des perspectives de sortie dans 4 semaines.
Propos recueillis par Frédéric Veil. Selon le baromètre BVA pour RTL, le moral des Français n'a jamais été aussi bas, inférieur même au premier confinement. Malgré tout, plus de 8 Français sur 10 se disent prêts à respecter ce nouveau confinement. C'est un peu moins vrai chez les jeunes. Écoutez, Juliette, elle est étudiante et elle a pris l'habitude de sortir malgré le couvre-feu.
J'essaie de trouver des petites astuces qui sont pas très louables, hein, mais par exemple, je prends des faux billets de train pour pouvoir avoir une excuse et me rendre à des apéros, par exemple. J'utilise aussi l'excuse d'un rendez-vous chez le médecin pour traîner beaucoup plus. J'essaie de militer dans mon entourage en disant « Non mais bravo le couvre-feu, écoutez, qu'est-ce qu'on y risque ?»
Juliette au micro RTL de Jeanne Mézia. Notez que la France a encore enregistré près de 35 000 nouveaux cas de Covid sur les dernières 24 heures, avec une nouvelle hausse du nombre de patients en réanimation. On est à plus de 4 200 sur toute la France, dont 1 200 en région parisienne.
Et on en vient maintenant à cette histoire de David contre Goliath, Coca-Cola contre le vin corse.
Le géant américain tente en effet de faire interdire le Coca Mariani, une boisson à base de feuilles de coca qui existe depuis 1868.
Mais oui.
Monsieur, elle a été relancée récemment par un pharmacien de Bastia, Christian Mariani, aucun lien avec le créateur, Christian Mariani, qui fait de la résistance sûre de son bon droit.
Pour nous, ça a été carrément un affront. On est 25 ans avant le Coca-Cola, carrément. Le Coca Mariani a été créé en 1863 par Angelo Mariani. Et quand Jules Verne disait qu'il adorait, même le pape Léon XIII qui adorait et qui consommait notre produit, Coca-Cola ne peut pas aujourd'hui prétendre l'annulation de la marque Coca Mariani. C'est un vrai combat qu'on a l'intention de mener jusqu'au bout. Il en va de notre identité, de notre ADN.
Christian Mariani au micro RTL de Vincent Serrano. Les experts européens de la propriété intellectuelle rendront leur décision d'ici 6 mois. À l'étranger, Vladimir Poutine propose à Joe Biden une discussion en direct dans les jours qui viennent. Réponse aux déclarations du président américain qui l'a traité de tueur. Le foot avec le tirage au sort à midi des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le PSG va tenter d'éviter les gros, comme on dit. Surtout le Bayern, nous dit Guy Stéphan, le sélectionneur adjoint des Bleus.
A priori, en tout cas, le Bayern est l'équipe la plus performante. Ça tombe bien. Il y a beaucoup de Français au Bayern, donc on est content qu'il y ait Benjamin, qu'il y ait Lucas, qu'il y ait Kingsley. Oui, je pense que le Bayern est une machine et qu'ils savent gérer les matchs et qu'il y a beaucoup de sérénité également dans leur jeu.
Guy Stéphan avec Philippe Sanfourche, match aller les 6 et 7 avril pour ces quarts de finale. En rugby, sachez que le match France-Écosse du tournoi Destination se jouera vendredi prochain, le 26 mars. Il avait été reporté après une série de 4 Covid dans le 15 de France.
C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, nous verrons comment la Terre risque de se dépeupler d'ici la fin du siècle. J'ai bien dit dépeupler.
Oui, oui, nous avons bien compris. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Il est 7h37. Comme le dit la formule, la Cour des comptes épingle.
Oui, parce qu'elle publie son rapport annuel. Vous savez que pour les journalistes économiques, le rapport annuel de la Cour des comptes, c'est un peu comme quand le soleil caresse de ses rayons le temple d'Abou Simbel.
Oui,
une
ça.
Fois par an, le monde s'éclaire. Je vais vous en faire profiter avec un chapitre très intéressant sur les lits de réanimation.
Ah, ah. À tout de suite.
RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, L'Anglais Co avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
Grâce à la Cour des comptes, vous vous penchez ce matin sur les lits de réanimation en France.
Oui, c'est évidemment le goulot d'étranglement du système hospitalier parce que c'est la saturation de ces lits en ce moment à cause de la crise sanitaire qui explique le confinement et les mesures de restriction de circulation pour nous. Il y avait, avant la crise, fin de 2019, 19 580 lits dits de soins critiques. dont 5433 dédiés à la réanimation, nous dit la Cour des comptes. Ces lits, en fait, ils comptent pour 20% des journées d'hospitalisation. Ils nécessitent 54 000 professionnels médicaux et paramédicaux pour fonctionner, c'est beaucoup. Hein. Oui. Ils coûtent d'ailleurs un peu plus de 7 milliards d'euros, dont la moitié pour la réanimation.
Alors, on a beaucoup entendu que la France était beaucoup moins équipée que l'Allemagne.
Oui, c'est ce que disent les comparaisons internationales, celles de l'OCDE en particulier, qui pointaient un écart de 1 à 3. Mais en fait, il y a plusieurs biais. D'abord parce que l'Allemagne prend en compte tous ces lits critiques, y compris ceux qui sont destinés aux enfants, alors que nous ne prenons en compte que ceux des adultes et seulement la réa. Corrigé de tout ça, il y a quand même une différence. 124 lits pour 100 000 habitants de plus de 60 ans en Allemagne, contre 116 chez nous. Notre système était donc mal préparé à affronter la crise.
Qu'est-ce qui a péché ?
Ben, le paradoxe, c'est qu'au contraire du nombre de lits d'hospitalisation classique, qui a baissé entre 2013 et 2019, le nombre de lits de réa progresser sur cette période de 7%. Mais, et c'est là le problème, cette progression a été très inférieure à celle du nombre de personnes âgées qui constituent les deux tiers des malades qui utilisent ces équipements. Constat de la Cour, assorti d'un avertissement, dans les 20 ans qui viennent, le nombre de plus de 60 ans va progresser de 5 millions de personnes.
Mais ça veut dire qu'il faut augmenter les capacités de façon durable, c'est ça ?
Oui, au moins réduire les disparités régionales qui sont très importantes, apaiser les tensions sur les ressources humaines. Hein. Vous savez qu'il y a là un obstacle pour la capacité de soigner. Les postes affectés à la réa connaissent un turnover très important parce qu'ils sont très exigeants, parce qu'ils sont très stressants. Un patient sur 5 décède en réanimation. Ajoutez à ça le mode de financement de l'hôpital, ce qu'on appelle la tarification à l'acte, a indirectement poussé les établissements à limiter ces équipements très coûteux. L'ouverture d'un lit de réa génère en effet un déficit estimé par la Cour à 115 000 euros par an. C'est
chaque
rien.
Lit.
Oui, chaque lit. Faute de tout ça, la France risque de se retrouver dans une situation de pénurie structurelle, même après l'épidémie.
Et ce qui reviendrait à dire qu'on ne pourrait plus se soigner ?
Oui, qu'on serait contraint de faire des choix, comme pendant l'épidémie. En avril 2020, quand le système de soins était surchargé par la première vague, et ça malgré le doublement du nombre de lits en urgence, les chirurgies majeures hors Covid ont chuté de 50%. Tout comme les passages aux urgences. Et ce qui est très singulier, c'est qu'il n'y a eu aucun effet de rattrapage après. Soit que ces actes manquants n'étaient finalement pas si nécessaires, soit qu'ils correspondent à de vraies pathologies dont les conséquences potentiellement considérables, nous dit la Cour, se révéleront au fil des ans.
Merci beaucoup François Langlais, on vous dit à lundi et d'ici là sur RTL.fr pour votre série de l'Angleco avec Catherine Mangin. Vous y analysez les prévisions de croissance pour l'année 2021. Il est 7h41, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal pour mieux comprendre ce nouveau confinement qui privilégie d'être en extérieur.
A tout de suite avec le porte-parole du gouvernement.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Vous savez ce que disait Boileau ? Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Gabriel Attal, il faut nous éclairer ce matin. Je prends des exemples que j'ai entendus de la part des auditeurs. Pourquoi faut-il une attestation alors qu'il n'y a pas de limitation dans la durée ? La règle des 10 km, est-ce qu'elle s'applique pour un Avignonnais qui va à Nice ou un Breton qui va à Paris ? Qui a le droit de bouger et comment ? On ferme les coiffeurs, mais on ne sait pas si nos écoliers, collégiens, lycéens sont soumis correctement à des tests salivaires, dont on ne sait même pas s'ils sont tout à fait fiables. Il y a besoin de clarté ce matin, Gabriel Attal.
Je l'entends parfaitement, Alba Ventura. Et si je devais résumer les annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre et le ministre de la Santé, c'est qu'on prend des mesures territorialisées dans des territoires où la situation est nettement plus dégradée qu'ailleurs. Et que le sens de ces mesures, c'est de dire qu'il faut encore davantage réduire ces interactions sociales, ces contacts sociaux. Et que tout ce qu'on peut faire dehors, il faut le faire dehors. Parce qu'on a appris depuis un an et depuis le début de cette crise.
On va pas vivre dehors.
On a appris sur la manière dont l'épidémie se transmet, dont le virus se transmet, dont on peut s'en protéger. On a des études, notamment celle qui a été conduite par le professeur Fontanet, qui montre que les risques de se contaminer en extérieur quand on porte le masque, quand on garde les distances, sont infiniment moins importants. Je crois que c'est 5% des contaminations que quand on est en intérieur.
Mais comment donc, on vit dehors, Gabriel Attal ?
Il ne s'agit pas de vivre dehors, mais les interactions
on
que
est en mars.
Vous devez avoir. Par exemple, si la météo s'améliore, et c'est évidemment tout ce qu'on
mais là,
souhaite,
on
arrive dans une saison. Il vaut mieux passer un peu de temps dehors qu'en intérieur avec d'autres personnes. Voilà, c'est le sens de
mais
ces
vous savez que dehors, il y a aussi des gens qui se regroupent pour boire un coup. Mais justement, et on n'est pas sûr qu'ils soient à 2 mètres les uns des autres.
Précisément, c'est pour ça que je vous indiquais à l'instant qu'il faut évidemment garder les gestes barrières, qu'il faut porter le masque autant que possible, qu'il faut garder les distances, qu'il faut rester dans des groupes limités autour de 6 personnes. Mais on nous demande, et je pense que à raison, on nous demande de tenir compte des enseignements que nous avons de cette crise depuis un an. Il y a une demande très forte de territorialisation. Donc oui, ça veut dire qu'on adapte les mesures au territoire et qu'on adapte les mesures à la lumière des enseignements qu'on a tirés de cette crise et des premiers confinements.
Mais c'est bizarre
ça
quand
même. Ça fait des changements et j'entends les questions sur la clarté. Mais je pense que l'important, c'est de tenir de ces, de tirer des enseignements de ces deux dimensions, c'est-à-dire prendre des mesures territorialisées et les adapter aux enseignements qu'on a pu tirer du début de la crise.
Et donc en quoi c'est un confinement ? C'est pas un confinement.
Moi, je suis pas un fétichiste des mots, Alba Ventura. Ce que je vous dis, c'est que la cohérence, c'est de dire qu'il faut réduire ses interactions sociales et que être à l'extérieur, c'est mieux que d'être à l'intérieur avec d'autres personnes qui ne sont pas de son foyer.
Et alors, il y avait une règle avant qui disait qu'on pouvait toujours déjeuner à la maison à 6 maxi. Est-ce que c'est toujours la règle ?
Non, pas avec des personnes qui ne sont pas de votre foyer.
Donc on n'invite plus personne à la maison.
Non, c'est ça les règles, et c'est pour ça qu'il y a une attestation, c'est pour ça qu'on invite à réduire les interactions. En revanche, si vous voulez croiser, retrouver des personnes qui ne sont pas de votre foyer, vous pouvez les croiser, les retrouver à l'extérieur.
Dehors, avec un sandwich.
Vous savez, c'est ce qui est recommandé dans beaucoup de pays européens depuis maintenant plusieurs semaines. On s'adapte, comme d'autres pays, à ce qu'on apprend de cette épidémie, dont je rappelle qu'elle a un an, et de ce virus dont je rappelle qu'il a un an.
Le moral est au plus bas, hein, c'est ce que nous dit un sondage BVA. Et hier, alors, le Premier ministre s'est beaucoup justifié de ne pas avoir reconfiné plus tôt, de ne pas avoir reconfiné au mois de janvier. Pourquoi se justifier autant ?
Parce qu'on voit bien les interventions des uns et des autres qu'on peut entendre sur les plateaux qui disent finalement qu'il aurait fallu le faire à la fin du mois de janvier.
Mais oui.
À la fin du mois de janvier, Alba Ventura, quand la question de reconfiner ou non s'est posée, elle s'est posée sur la base de projections d'épidémiologistes qui avaient été conduites. Et on a besoin d'eux pour nous éclairer, pour nous guider dans cette crise, qui indiquait qu'il y aurait une explosion des contaminations à la mi-février. Cette explosion n'a pas eu lieu.
Jusqu'en mars, il disait.
Cette explosion n'a pas eu lieu. Et quand vous regardez les projections, il y a un journaliste, Vincent Glade, qui les a remises hier sur Twitter, quand vous regardez, ils indiquaient qu'avec un confinement très strict d'un mois sur le mois de février, nous serions à la mi-mars autour de 25 000 à 30 000 contaminations par jour. À combien de contaminations par jour on est aujourd'hui ? On est autour de 27 000, alors qu'il n'y a pas eu ce confinement strict d'un mois. Donc oui, on a eu raison de ne pas confiner à la fin du mois de janvier, parce que selon les projections qui nous étaient données, il devait y avoir une explosion en février qui n'a pas eu lieu, et on devait, même avec ce confinement, se retrouver à un niveau de contamination qu'on constate aujourd'hui, sans avoir eu à fermer nos écoles.
Ça n'aurait servi à rien, en fait, c'est ce que vous nous dites.
Ce n'est pas ce que je dis, Alba Ventura. Ce que je dis, c'est que quand cette question s'est posée, elle s'est posée, encore une fois, sur la base de projections. Et ces projections ont été déjouées, mais parce que les Français se sont mobilisés, parce qu'on a pris des mesures supplémentaires,
mais
parce qu'on a avancé le couvre-feu à 18h.
Ce pari que vous avez appelé ce trou de souris, ce petit chemin, on a bien fait
j'ai jamais employé ces termes, j'ai jamais parlé de pari. On ne fait pas de pari avec la santé des Français, on fait des choix. Et les choix, on les a toujours faits devant des faits, on ne les a pas faits devant des hypothèses. Le confinement, les mesures de restriction, elles sont très lourdes pour les Français. Moi, j'entends des gens qui me disent « Oui, aujourd'hui, en tout cas avant qu'on annonce ça, c'était des demi-mesures. » Mais pour les Français, ce n'est pas des demi-mesures d'avoir le couvre-feu à 18h ou même maintenant à 19h. Ce n'est pas des demi-mesures d'avoir des centres commerciaux qui sont fermés, de devoir télétravailler dès qu'on le peut. Et donc, il faut prendre des mesures proportionnées de manière pragmatique et territorialisée, et c'est ce qu'on fait.
Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il y a au bout des 4 semaines ?
On espère une diminution de la situation épidémique. On espère voir la situation et la pression sur nos services hospitaliers baisser. Et on espère, du coup, qu'on pourra relâcher un certain nombre de restrictions. C'est l'objectif. Vous savez pourquoi est-ce qu'on l'espère ? On l'espère parce qu'on prend ces mesures et que, comme toutes les mesures qu'on a prises depuis le début de cette crise, les Français vont les respecter. Mais aussi parce que la vaccination, c'est un grand progrès qui va nous permettre d'alléger la pression sur l'hôpital en limitant le nombre de personnes qui font des formes graves.
Je voulais revenir sur les cas énoncés tout à l'heure par les auditeurs et revenir sur le cas des commerces notamment, donc retour de la fermeture des commerces non essentiels. Ça veut dire que vous ne faites pas confiance aux commerçants pour aménager des horaires ou respecter des jauges ou respecter les gestes barrières. Je pense aux coiffeurs. Enfin, chez un coiffeur, pardon, mais on n'est pas face à face et en plus on a le masque. Donc,
je vais vous dire, Alba Ventura, évidemment qu'on fait confiance à tous les professionnels en France pour adapter, pour faire des protocoles sanitaires. Ils l'ont fait depuis le début de cette crise, ils ont fait beaucoup d'efforts.
Pourquoi vous les fermez alors ?
Quand vous devez limiter les interactions dans des lieux clos, vous devez fermer un certain nombre de lieux. C'est difficile pour les personnes concernées. Elles seront évidemment indemnisées comme elles l'ont été en novembre avec le Fonds de solidarité. Et je peux vous dire qu'elles ont bien vu au mois de novembre, au mois de décembre, qu'elles recevaient les aides. Vous évoquez le cas des coiffeurs spécifiquement. Les coiffeurs pourront rester ouverts, vous l'avez dit, il y a des conditions qui sont particulières.
Les coiffeurs pourront rester ouverts?
Oui, les coiffeurs pourront rester ouverts, vous l'avez dit, il y a un protocole sanitaire particulier qui a été mis en place, et il y a un décret qui va être présenté qui indiquera quels sont les lieux, quels sont les commerces qui peuvent rester ouverts et ceux qui doivent fermer, et il indiquera notamment pour la question des coiffeurs, ils peuvent rester ouverts. On cherchera évidemment avec eux toujours les manières d'améliorer encore le protocole sanitaire et les règles pour limiter les transmissions.
Mais ça vaut pour coiffeurs, esthétiques, bar à ongles?
Je vous dis qu'il y aura une liste qui va être faite, mais encore une fois, Alba Ventura, c'est toujours difficile quand vous devez choisir de fermer un certain nombre de lieux. Parce qu'encore une fois, quand je vous dis que la cohérence, c'est de dire qu'on se contamine moins quand on est en extérieur, il y a une cohérence malheureusement qui n'a pas changé, c'est que les risques de contamination en intérieur sont beaucoup plus importants, notamment quand on ne porte pas le masque, et même quand on le porte, malheureusement, en intérieur, il y a des risques. Et donc, il faut limiter les lieux où on se rend compte.
Mais voilà. Est-ce que c'est plus dangereux d'aller chez le fleuriste que chez le coiffeur ?
Je ne rentre pas là-dedans. Un fleuriste, par ailleurs, les commerces pourront vendre en click and collect, comme on dit, à l'extérieur de leur boutique. Évidemment, tout ça, tous ces enseignements qu'on a tirés, tout ce qu'on a appris collectivement dans les deux premiers confinements, on va pouvoir le mettre en place dans cette nouvelle séquence qui s'ouvre.
Parlons des tests maintenant. Martin Hirsch était dans ce studio mercredi. Il proposait de faire des tests, par exemple, avant d'aller faire ses courses. On se dit, tiens, le week-end de Pâques approche, faire un test avant d'aller à la messe, mais bon, ça vaut pour la synagogue ou la mosquée. Pourquoi on ne met pas en place ce genre de protocole ?
Les tests ont été considérablement développés en France. Aujourd'hui, vous pouvez aller vous faire tester avec un test antigénique.
Mais on l'oblige pas.
Dans une pharmacie, par exemple, et vous pouvez avoir le résultat en 15 minutes. On va développer les autotests aussi. Évidemment, tout ça se déploie. Après, il y aura un enjeu, c'est quand on pourra alléger un certain nombre de restrictions, rouvrir un certain nombre de lieux, se posera la question de l'accès à ces lieux et du fait de potentiellement les conditionner à un test négatif qui aura été fait avant. C'est ce sur quoi on travaille en ce moment, évidemment, en parallèle avec les membres du gouvernement.
Le Premier ministre a appelé hier à plus de télétravail, au moins 4 jours sur 5. Est-ce que vous allez sanctionner les entreprises qui ne jouent pas le jeu ?
Il faut continuer à augmenter le recours au télétravail. C'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il y avait une vraie baisse par rapport au mois de novembre où ça avait beaucoup chuté. Et malheureusement, on a vu qu'il y avait plus de difficultés à avoir recours au télétravail fortement ces dernières semaines et ces
derniers mois.
Donc on va augmenter les contrôles, on va augmenter les sanctions pour garantir que quand on peut télétravailler, on télétravaille, que les entreprises laissent télétravailler leurs salariés qui peuvent télétravailler.
Quelles sanctions ?
Elisabeth Borne, ma collègue ministre du Travail, s'exprimera très prochainement pour donner les détails de tout cela. Mais encore une fois, il faut limiter nos interactions en intérieur. On sait que le travail, c'est un lieu où on peut se contaminer, notamment dans les cantines d'entreprise. Et donc, tout ça va être précisé.
Gabriel Attal, la vaccination, puisque la campagne va reprendre avec AstraZeneca. Quelqu'un qui refuse le vaccin AstraZeneca, est-ce qu'il perd sa place ? Ou est-ce qu'on lui trouve un autre vaccin ?
Quand on vous propose un vaccin, c'est que le vaccin est indiqué pour vous.
Donc il n'a pas le choix.
Il y a la Haute Autorité de Santé qui remet des recommandations d'utilisation sur les vaccins. Si on vous propose un vaccin, c'est que c'est le vaccin le mieux indiqué pour vous. Donc il n'y a pas de raison de le refuser. Moi, j'entends les questions de confiance. Je vais vous
dans
dire.
Notre sondage BVA, 44% seulement des gens font confiance à AstraZeneca.
J'entends qu'il y a des questions de confiance qui se posent d'ailleurs là aussi en France et dans d'autres pays européens qui sont confrontés à la même situation. Et donc oui, il y a un travail à mener pour regagner la confiance sur le vaccin AstraZeneca. On en est parfaitement conscient. D'ailleurs, le Premier ministre va se faire vacciner lui-même aujourd'hui pour montrer que c'est un vaccin sûr et efficace. C'est ce qu'a redit hier l'Agence européenne du médicament, c'est ce que disent les agences de santé françaises. On a besoin du vaccin.
Et vous allez vous
faire
vacciner ?
C'est la sortie de crise, le vaccin. C'est ce qui nous permettra de sortir de cette crise. C'est essentiel que les Français se fassent vacciner.
Vous allez vous faire vacciner ?
Moi, j'ai toujours dit que, comme tous les membres du gouvernement, j'attendrai mon tour. Vous savez, on était très sensibles au fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait de passe-droit. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'ai dit au Premier ministre, c'est que si on constate qu'il y a un vrai problème de confiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca, que c'est utile, que c'est considéré comme utile que je me fasse vacciner, moi, j'ai proposé de le faire, évidemment.
AstraZeneca. Juste une dernière chose, est-ce que vous prévoyez de vacciner davantage dans les zones en tension ?
ce qu'on a fait depuis le début de cette crise, c'est que lorsqu'il y a des zones où la situation épidémique est plus dégradée, effectivement, on fait en sorte de concentrer la vaccination davantage dans ces zones. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on va retirer des vaccins à certains territoires pour en donner à d'autres. Il y a des rendez-vous qui ont été pris, des centaines de milliers de rendez-vous qui ont été pris. Ils seront évidemment tenus. Les vaccins, ils continuent à arriver. J'entends parfaitement qu'il y a une frustration. Moi, je connais des Français qui ont plus de 75 ans, qui sont prioritaires depuis janvier, qui n'ont toujours pas pu être vaccinés. Ils le seront dans les prochaines semaines. Objectif 10 millions de personnes vaccinées à la mi-avril. Et on va y arriver.
Merci beaucoup, Gabriel Attal.
Gabriel Attal qui annonce sur RTL une hausse des contrôles et des sanctions pour le télétravail. Et par ailleurs, les coiffeurs qui vont donc pouvoir rester ouverts avec des protocoles renforcés. Pardonnez-moi. Je vous rappelle que nous serons avec, à 8h20 avec Alain Fischer, qui est le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Et nous reviendrons avec lui, bien entendu, sur la reprise de la vaccination AstraZeneca. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site RTL.fr. Cyprien est avec nous dans un instant, nous allons surfer.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Cini.
Vous surfez ce matin avec les tenues de nos policiers ?
Eh oui, car la vie est décidément pleine de surprises. Oui. Dans une actualité vampirisée par la crise sanitaire, on en oublierait presque.
Gérald Darmanin confirme un Beauvau de la sécurité.
Le Beauvau de la sécurité, on a fait des caisses, grand état des lieux de la police, et on y parle.
Parmi ces grands thèmes, par exemple, la formation, l'encadrement des policiers, les moyens.
Encadrement, formation, moyens, mais surtout... Et c'est ça qui est bon. I'm sexy and I know it. On y parle aussi fashion, mode, look et style du policier de demain. Et oui, puisque je vous rappelle qu'ici c'est...
Paris, capitale de la mode.
Et le monde France, entier. Mesdames, messieurs, pays de...
La mode, la mode, la mode.
Résultat, un cahier des charges envoyé par le ministre à 24 écoles de mode et de design pour inventer la tenue du policier de demain. Pour un policier... élégant, chic et tendance. Faut dire que la dernière fois, c'était en 2004. Et à l'époque...
Nouvel uniforme, nouveau look. Le tout redessiné, s'il vous plaît, par la maison Balenciaga Uniforme.
Balenciaga, il y avait du budget quand même. Hein. Mais maintenant, au gouvernement, bah, c'est un peu comme dans les reines du shopping sur M6. Hein.
Ils disposeront d'un budget limité.
Donc, oui. Balenciaga, on oublie. Hein. On va plutôt demander aux étudiants. Au moins, c'est gratos. Alors, pas ravi, les étudiants. Surtout que le cahier des charges est précis. Moderne et pratique, comme à chaque fois, en fait, avec... le problème récurrent du policier, le képi, et cette révolution en 1985.
Blouson, arme en évidence et casquette à l'américaine.
Le képi ne tombe plus, ne s'accroche plus dans les portières, ni rien du tout.
Mais après tout, les jeunes aiment bien la casquette, et bien on va pour la casquette.
Va pour la casquette, la casquette remplace le képi, mais en 2004 encore, la casquette.
Et cette casquette qui tient bien mieux sur la tête quand il faut courir, tout a été repensé.
Ouais, sauf qu'en fait, et ben, elle tient pas si bien que ça. Ras la casquette de la casquette, les policiers, et les étudiants doivent donc trouver, je cite, un bonnet de police modernisé, un bonnet pour l'été, voire chaud. Et ça, bah c'est top tendance, le bonnet, la preuve.
Les bonnets, ça peut être très sympa. À fond, les bonnets, c'est pas des casquettes, c'est pas des bérets, c'est des bonnets très, très glam. C'est magnifique.
Ils sentent la mode à Beauvau, ils sont dans le coup. Puis alors, le polo bleu glacier, là, ça, c'est plus possible non plus. Hein.
Tu vois pas où est le fashion faux pas, là.
Ah bah si, si, c'est beaucoup trop salissant. Beauvau veut un bleu marine. Et là aussi, c'est dans le mille, car...
Le bleu marine est absolument partout en ce moment. Les people américaines en portent partout. Bleu marine ou bleu marine, parce que c'est dans les tendances.
Résultat, avec le Beauvau de la sécurité, on sait pas encore s'il y aura plus de policiers. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils seront super bien habillés.
Ouais, on est d'accord et on se retrouve ce soir à 19h15 pour défaire le monde.
Absolument, avec toute l'équipe.
A tout à l'heure, Cyprien. La météo, Louis Bedin.
Oui, il neige un peu ce matin, oui, jusqu'en plaine du côté de la Lorraine, en Alsace. Il y en a encore un peu autour du Massif central ou encore en arrivant sur les Pyrénées. Alors cet après-midi, quand même, ça devrait un peu s'améliorer, notamment au nord de cette diagonale qui passe par le nord de l'Aquitaine pour rejoindre la Lorraine. Là, on conservera ou on retrouvera un temps très sec et très ensoleillé, mais avec un vent de nord-est assez désagréable. Mm-hmm. Et dans toutes les autres régions, là aussi, on retrouvera quand même quelques éclaircies, mais avec encore des averses sous forme de pluie ou de neige à basse altitude, notamment près des Pyrénées, le vent sera de la partie près de la Méditerranée, et puis les températures après des gelées plus fréquentes ce matin du centre au nord-est et à la région Rhône-Alpes, eh bien on restera en dessous des moyennes de saison, 7 à 9 degrés pas plus dans la moitié nord, 10 à 13 degrés de l'Aquitaine à la Méditerranée.
Louis Bodin. Bonne journée à tous, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, confinement, saison 3.
Un tiers des Français concernés à partir de demain dans les gares parisiennes. C'est déjà l'exode de Gauthier de Lombugard.
Oui, trois énormes valises entourent cette Parisienne qui a du mal à avancer sur le quai. D'autres emportent leur vélo, une guitare, certains des caisses avec leurs animaux, chat, chien, même un hamster. Cette jeune femme emporte la plante du salon, un joli ficus.
On vous retrouve dans le journal, Gauthier. Sortez, mais restez chez vous. C'est un peu le paradoxe de ce confinement New Look. Les détails avec la brigade. Et puis les coiffeurs pourront rester ouverts, annonce sur RTL le porte-parole du gouvernement. Enfin, on ira à Moscou où Vladimir Poutine veut un débat entre hommes avec Joe Biden.
RTL Matin.
Une grande fatigue et cette impression qu'on ne s'en sortira jamais. Le nouveau confinement annoncé par le gouvernement pour 21 millions de Français sonne un peu comme un retour en arrière. Et la réaction de cette habitante de Nanterre, Raphaël, résume l'état d'esprit général.
Moi, je suis extrêmement en colère parce que ça fait un an que je ne fais que travailler. J'ai pris que 15 jours de vacances cet été. Je ne reçois personne, pas d'amis, je ne vais nulle part. Je porte le masque tout le temps, je fais tout ce qu'il faut. Je croise là dans la rue, j'ai croisé 10 personnes sans masque. C'est à cause de ces gens-là, en fait, qu'on en arrive là. Et en fait, j'ai juste le droit de travailler depuis un an. Et là, je vais partir en vacances la semaine prochaine. Voilà, donc tout est annulé, je suis extrêmement en colère. Ouais. 4 semaines, et dans 4 semaines, on déconfine et on recommence dans 2 mois. Si encore ils vaccinaient tout le monde pendant les 4 semaines, ok, là ils vont vacciner personne, ils n'ont pas de vaccin, ils n'ont rien. Donc on recommence dans 2 mois. Donc à chaque fois c'est recommencé. Ça n'a pas été assez sérieux au début, puis c'est tout.
Un propos recueilli par Valentin Boisset. Pour beaucoup de Franciliens ce matin, une seule solution, fuir. Avant de détailler ces nouvelles restrictions, faisons un détour par la gare Montparnasse à Paris. On vous retrouve Gauthier Delon-Bugard. Les trains sont pris d'assaut.
Oui, Bordeaux, Nantes, les voyageurs se pressent sur les voies 4 et 5. Les bagages imposants, énormes valises, caisses avec des animaux de compagnie témoignent bien de cet exode comme un déménagement vers l'ouest et les régions non confinées.
Dès qu'on a vu M. Castex qui parlait, on a pris les TGV
Max.
TGV Max.
On vit un petit appartement de 24 mètres carrés à deux. Bon, au bout d'un moment, on en a marre, donc on part. J'ai une maison de famille à Nantes, donc on rentre à la maison.
Pour tout ce qui est sport, etc. après, donc c'est plus chouette d'être à l'air libre à Nantes.
Vous pensez quoi du fait de reconfiner Paris ?
Ça donne l'impression, un peu comme à tout le monde, d'un jour sans fin, et que même la durée des 4 semaines, en fait, est une durée initiale qu'on risque de prolonger encore et encore sans avoir de fin, quoi.
Nous venons de nous connecter sur l'application Oui SNCF pour tenter de prendre un train direction Bordeaux. La plupart sont complets ou alors il reste des places en première. Plutôt très cher, hein, 175 euros pour le 10h13.
Gauthier Delon-Bugard avec Benoît Gillon en direct de la gare Montparnasse à Paris.
16 départements sont donc replacés sous cloche dès ce soir minuit.
Ceux de l'Île-de-France, des Hauts-de-France, mais aussi la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes, un tiers des Français limités dans leur mouvement pour tenter de freiner l'épidémie. Que peut-on faire ? Et ne pas faire, on fait le point avec la brigade RTL. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Alors déjà, ceux qui habitent dans les 16 départements concernés par le confinement, peuvent-ils sortir de chez eux comme ils le veulent ?
La réponse est oui, ils peuvent sortir et sans limitation de durée, c'est la nouveauté. La seule contrainte désormais, c'est la distance autour de votre domicile, maximum 10 km autour de chez vous.
Et qui dit limite, dit attestation.
Absolument, c'est le grand retour de l'attestation et les policiers regarderont cette fois votre adresse et non plus l'heure de sortie. Bien évidemment, vous pouvez continuer à vous rendre au travail, même si celui-ci est au-delà des 10 km.
Alors ça Arnaud, c'est pour les déplacements locaux, mais le Premier ministre a aussi évoqué les déplacements entre départements.
Oui, vous ne pouvez pas sortir d'un département confiné, sauf raison impérieuse. Par exemple, vous ne pouvez pas vous rendre à Metz depuis Paris, sauf si vous avez une raison valable qu'il faudra justifier, bien sûr. Mais l'inverse est également de mise. Si vous habitez Metz, c'est que vous comptez venir à Paris. C'est non, sauf raison impérieuse.
Alors, poussons le bouchon un peu plus loin. Si j'habite à Marseille, qui n'est pas confiné, et que je veux aller en Bretagne, je peux ?
Absolument, mais pour cela, il faudra arriver avant 19h, la nouvelle heure du couvre-feu.
Et il y aura des contrôles dans les départements ?
Ça oui, ils commenceront dès samedi 6h, dans les gares, aéroports et péages, même chose que lors des précédents confinements, pas de justification valable égale une amende.
Enfin, que faire également si on a déjà réservé des billets de train et qu'on ne peut plus voyager à cause du confinement ?
Eh bien, la SNCF est généreuse puisqu'elle a décidé hier soir de rendre tous les billets de TGV, Ouigo, Intercité et TER en correspondance échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment. Et cette mesure est valable jusqu'au 19 avril prochain.
La brigade RTL signée Arnaud Touche. Merci Arnaud. On pourra donc sortir et on pourra aussi aller chez le coiffeur. Hein, c'est ce qui est annoncé tout à l'heure sur RTL, le porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, écoutez la réaction du président du syndicat des coiffeurs, Christophe Doré.
Écoutez, j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter au plafond, je suis ravi. Ça fait des mois, des semaines que je me bats pour que la coiffeur soit reconnue comme un métier essentiel. Eh bien écoutez, si tel est vraiment le cas, parce que je découvre cette information sur l'antenne, ben écoutez, ça y est, la coiffeur est enfin reconnue comme un métier essentiel pour le bien-être des gens au quotidien. Donc, dans ce contexte de détresse, eh ben, la coiffure redonnera le moral aux Français.
Voilà la joie du président du syndicat des coiffeurs, Christophe Doré. Les libraires et les disquaires aussi pourront rester ouverts, mais tous les autres commerces dits non essentiels seront à nouveau fermés à partir de demain. Jacques Cressel de la Fédération Commerce et Distribution, qui représente les grandes enseignes, est consterné.
C'est très clairement une nouvelle catastrophe pour le commerce. Le commerce est reconnu comme étant un lieu où il n'y a pas de propagation des contaminations. Et pour autant, les mesures qui sont prises sont à chaque fois des mesures de fermeture des commerces. Pour certains, ça risque d'être le coup de grâce. Et par ailleurs, les grandes surfaces vont devoir à nouveau bâcher une partie de leur rayon avec le retour en absurdie dans lequel les pyjamas de 2 ans vont être considérés comme des biens de nécessité. Les pyjamas pour un enfant de 4 ans, ça sera pas le cas. On est vraiment reparti dans quelque chose non seulement catastrophique en termes économiques, mais d'une complexité absolument redoutable. On n'a rien appris de ce qui s'est passé depuis un an.
Un propos recueilli par Armel Lévy. Malgré tout, 8 Français sur 10 affirment qu'ils se plieront à ces nouvelles restrictions d'après un sondage BVA Orange pour RTL. Et dans cette même enquête, ils expriment leur crainte sur le vaccin AstraZeneca. 56% d'entre eux y sont hostiles. Ce matin, la Haute Autorité de Santé doit confirmer la sûreté de ce produit validé hier par l'Agence Européenne des Médicaments. Et pour relancer la campagne et donner l'exemple, Jean Castex se fera vacciner cet après-midi sous l'œil des caméras.
Nous en parlerons avec le professeur Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, à 8h20 en direct sur RTL. Dans un instant, l'escalade verbale, j'ai bien dit verbale, entre Moscou et Washington.
RTL Matin.
8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. C'est un peu un duel à l'ancienne que Vladimir Poutine propose à Joe Biden.
Mais sans épée, juste avec des mots et à distance. Le maître du Kremlin n'a pas aimé se faire traiter de tueur par le président américain. Il lui lance donc un défi sur l'air de « viens le dire en face, citer un homme ». À Moscou, pour RTL, Félix Grasso.
Vladimir Poutine n'est jamais là où on l'attend. Loin de s'offusquer d'être considéré comme un tueur par Joe Biden, il a sorti de sa poche une proposition originale alors qu'un journaliste de la télévision russe lui demandait s'il était prêt à continuer à travailler avec son homologue américain.
Je veux proposer au président Biden de poursuivre nos discussions, mais à une condition, que nous le fassions en direct, comme on dit, online.
Et Vladimir Poutine de proposer dans la foulée de le faire aujourd'hui ou lundi, car il entend profiter du week-end pour se reposer. Une façon de désamorcer les accusations de Joe Biden à l'heure où les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas. Le président russe souhaite pouvoir ainsi discuter de l'architecture de sécurité mondiale, de la relation bilatérale, des conflits régionaux ou encore de la pandémie. Vladimir Poutine n'a toutefois pas mentionné la question des droits de l'homme, polarisée par la condamnation d'Alexei Navalny.
Félix Grasso à Moscou pour RTL. Les droits de l'homme également à l'origine de bisbilles diplomatiques entre Washington et Pékin. L'administration Biden s'en est pris au génocide des Ouïghours et à la répression des manifestants à Hong Kong. La Chine dénonce une ingérence et menace les Américains de représailles.
En France, un faux monnayeur démasqué en région parisienne.
Ce Bulgare a trompé son monde en faisant parfaitement illusion, Guillaume Chiez.
Oui, en 4 mois, cet homme a réussi à écouler près de 300 billets de 500 euros. Toujours les mêmes cibles, les magasins de luxe de la région parisienne. Et toujours la même technique. Cet homme d'une 60aine d'années parle un anglais parfait. Il présente bien, pas le genre à écouler de la fausse monnaie. D'ailleurs, les billets qu'il tend pour régler ses achats sont vrais dans un premier temps, mais par un tour de passe-passe, il les remplace finalement par des faux une fois que ceux-ci sont passés au détecteur. Le vendeur n'y voit que du feu. Il faut dire que ces contrefaçons sont d'une qualité supérieure. Éric Bertrand est le directeur de l'Office central de la répression du faux monnayage.
Dans les faux billets fabriqués en Bulgarie, la Bulgarie il y a la particularité de fabriquer des billets de haute valeur, c'est-à-dire des billets de 500, 200 ou 100 euros, qui sont de fait de meilleure qualité que les faux billets italiens, parce que les grosses coupures sont plus contrôlées par les commerçants.
C'est en visionnant les bandes de vidéosurveillance des magasins que les enquêteurs ont reconnu le faussaire. Cet homme avait déjà été interpellé pour les mêmes faits il y a quelques années. Arrêté mardi avec 2 complices, ce Bulgare est aujourd'hui placé en détention provisoire.
Guillaume Chiez, cet incendie mortel ira à Reims à 20h. Une femme de 25 ans est décédée. Il y a 3 blessés graves. 33 personnes ont été évacuées. La police judiciaire est saisie car l'incendie est parti du hall de l'immeuble. La piste criminelle est privilégiée. La 5G à Paris, une réalité à partir d'aujourd'hui. Le réseau est mis en service. La capitale rejoint donc Strasbourg, Lyon ou encore Bordeaux.
L'histoire du jour.
Oui, je voulais vous donner le titre de cette dépêche tombée hier matin qu'on n'avait pas eu le temps de vous faire partager. Oui. Dépêche AFP, 18 mars 2021, 6h45. Et ce titre, repu, fainéant, pourquoi les éléphants de mer dodus prennent moins de risques. Alors, c'est vrai qu'on était très nombreux à se poser la question.
Oui, en effet, oui.
Voilà. Alors, enfin, plus ils sont gros, plus ils flottent, plus ils savent qu'ils sont repérables. Mais je trouve que l'AFP s'intéresse à des sujets importants.
Bah, heureusement que l'AFP s'intéresse aussi à nos éléphants de mer. Moi, je vous dis à lundi, et d'ici là, sur RTL.
Non, je reviens à 9h.
Ah, vous revenez à... Mais bien sûr, vous revenez à 9h. Ouais. Avant Gaëtan Roussel, qui sera notre invité pour la sortie de son dernier album. Bon, bah alors, à tout à l'heure. Dans un instant, on va retrouver Jean-Mathieu Pernin pour nos fausses informations.
RTL, toujours avec vous. Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Démonter une fake news à 8h14 avec Jean-Mathieu Pernin. Bonjour Jean-Mathieu.
Bonjour.
Aujourd'hui, peut-on perdre son assurance vie si on meurt après une injection du vaccin anti-Covid?
Et oui, alors.
C'est vraiment. Il n'y a plus. Il n'y a pas de limite dans la dinguerie.
Jamais. Alors, cas pratique. Aujourd'hui, face à une intox internationale, principalement francophone. Elle se répand sur de nombreux sites complotistes et notamment en France, sur le site d'extrême droite Riposte Laïque. On peut y lire un article où l'on trouve ce genre de phrase. Si vous avez un capital décès sur une assurance vie, le capital ne sera pas viré à votre bénéficiaire si vous décédez par suite d'un vaccin. Certaines assurances considèrent que vous avez participé volontairement à une expérimentation. En conséquence, vos proches ne percevront pas d'argent de votre contrat assurance vie. Ah bon ? Mais personne n'en a parlé. Bon, sûrement un complot, hein. Depuis le temps que je dis que mon assureur est un homme lézard. Bon, c'est bien sûr totalement faux, et notamment quand l'auteur explique que, je cite, « les vaccins anti-Covid sont expérimentaux tant que les essais de phase 3 n'ont pas été terminés, analysés, publiés, validés ». Alors comme explique le journal Libération, qui a débusqué cet intox, même si les délais pour produire et mettre sur le marché ces vaccins ont été réduits, ils ne sont pas expérimentaux du tout. Ils ont tous été approuvés par l'Agence européenne des médicaments. De plus, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est l'organe de contrôle de la banque et de l'assurance, confirme que les conditions du décès de l'assuré n'ont aucune incidence sur le versement aux bénéficiaires des sommes versées sur un contrat d'assurance vie, qui est un produit d'épargne.
Vous voyez, du coup, je peux mourir tranquillement. Alors, qui est l'auteur de cet article ?
Alors, il s'agit de Nicole Delépine, ancienne chef de service en cancérologie pédiatrique à l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui dénonce régulièrement le port du masque, le confinement, la vaccination contre le Covid-19 à l'aide d'arguments souvent infondés. Depuis le lancement de la vaccination anti-Covid en France, elle prétend qu'il s'agit d'une expérimentation à grande échelle. Souci, concernant son dernier texte, elle ne donne aucun nom d'assurance refusant de verser l'argent de ceux qui ont cotisé. C'est embêtant. Oui. Tout reste en suspens. Et c'est ce genre de non-argument qui doit alerter si vous tombez sur cet intox. Cette rumeur d'assurance vie non versée en cas de décès dû à un vaccin a déjà d'ailleurs été repérée au Canada, où des internautes accusaient la compagnie d'assurance Manuvie. Et en fait, il s'agissait d'une mauvaise interprétation et l'intox s'est fait chier dedans, donc difficile de s'en défaire.
Les assurances font souvent l'objet d'intox à propos du Covid.
Oui, alors c'est une cible facile car beaucoup de compagnies d'assurance ont été critiquées lors du premier confinement avec, vous savez, les fameuses clauses pandémie et découvertes qui ne pouvaient pas toucher d'argent parce qu'il n'y avait pas justement de clause pandémie. Et depuis, le gouvernement a mis en garde contre des arnaques téléphoniques à des assurances spéciales Covid ou sur des contrats à réviser qui n'en étaient pas. Donc prudence, une seule assurance. L'intox court toujours.
Très bien, merci beaucoup. Et puis on va proposer à Madame Delépine de prendre un petit peu d'homéopathie.
Exactement. Voilà.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous adressez à toutes celles et à tous ceux qui ont une fâcheuse tendance à grignoter.
Et je leur dis qu'ils se préparent des lendemains désagréables. Ah. Et je ne parle pas seulement des kilos qui menacent de s'accumuler, qui vous plombent esthétiquement et psychologiquement. Je vous parle des choses autrement plus problématiques, de maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension qu'on retrouve dans tous les mauvais coups. Parce que si... pendant des années, vous consommez 20% d'aliments en plus de ce que vous devriez consommer. C'est une moyenne des excès de tous les grignoteurs. Il ne faut pas s'étonner que votre organisme vous présente la facture un jour ou l'autre.
Pourquoi grignote-t-on finalement ?
Alors, soit par stress, soit par ennui, donc pour des raisons qui demandent parfois un traitement de fond. Mais en attendant, si vous ne parvenez pas à vous départir de cette mauvaise habitude, j'ai quelques suggestions à vous faire, histoire de parer vos pulsions gourmandes. J'ai presque envie de vous dire, allez-y. Si vous ne pouvez pas ou pas encore faire autrement, allez-y, grignotez. Mais tant qu'à grignoter, ne vous trompez pas de produit.
Bah oui, parce que quand on grignote, c'est rarement pour croquer des bâtons de carottes crues. On aurait plutôt tendance à se jeter sur le gras et sur le sucré.
Hein. Bah écoutez, du sucré, j'en ai. Tant qu'à grignoter sucré, autant le faire avec des fruits séchés,
oui,
qu'il s'agisse d'abricots, de pruneaux, de raisins ou de dattes.
Très bien.
C'est mieux qu'une barre chocolatée croustillante. Et tenez, si c'est le chocolat qui vous obsède, mettez-vous au chocolat noir avec au minimum 70% de cacao dedans. Au moins, vous ferez le plein de fer, de phosphore, de magnésium, de zinc et de cuivre. Alors, bien sûr, vous me direz que le chocolat noir à 70%, c'est amer. Dans ce cas, mariez-le avec un fruit, une orange, un kiwi ou encore mieux, une banane. Vous aurez votre dose de sucre, mais au moins, ce sera du sucre naturel. Et la banane, soit dit en passant, est un très bon coupe-faim.
Alors ça, ce sont des conseils pour ceux qui veulent malgré tout grignoter, mais grignoter malin ou à moindre frais pour leur santé. Existe-t-il des astuces comportemental pour déjouer ce piège du grignotage?
Oui, pour faire passer une envie subite, rien de tel que d'aller faire un tour. Au lieu d'aller dans la cuisine, vous allez dans le jardin, dans la rue, dans la pièce d'à côté, où vous voulez, mais vous n'êtes pas à l'abri de voir votre envie de sucre et de gras disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Autre ruse, aller dans la salle de bain.
Ah oui, genre je fais quoi dans la salle de bain?
Eh bien, on se brosse les dents. Un bon petit coup de dentifrice mentholé, ça vous coupe l'appétit.
Ça,
et psychologiquement aussi, ça fait son petit effet parce qu'on a moins envie de se salir les dents quand on vient de les brosser. Et dernière chose, buvez. Mais buvez malin. Faites-vous un stock de tisane à la menthe ou à la réglisse et puisez dedans dès que vous sentez que vous flanchez. Les saveurs prononcées de ce genre éloignent les envies de sucre et de gras. Ultime précision, la tisane sans sucre, mais ça, vous l'aviez compris.
Ça allait de soi. Merci, cher Michel. Dans un instant, c'est le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, qui sera avec nous. La France va reprendre les injections avec le sérum AstraZeneca. Et cet après-midi, et ce, dès cet après-midi, la vaccination apparaît plus que jamais comme la seule option viable, vous le savez, pour sortir de la crise sanitaire. A tout de suite avec notre invité.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 8h22. Bonjour, professeur Alain Fischer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes pédiatre, immunologue et désormais, donc, je le rappelle, président du conseil d'orientation de notre stratégie vaccinale. On connaît votre liberté de parole. Revenons d'abord sur l'épisode AstraZeneca. Était-il vraiment nécessaire d'arrêter la vaccination?
Écoutez, il y avait une alerte qui venait de plusieurs pays européens, une alerte qui s'était renforcée dans la journée de lundi, venant d'Allemagne, avec plusieurs cas de personnes relativement jeunes. Relativement jeunes, ça veut dire entre 20 et 60 ans.
Oui.
Mais quand même. Qui avaient des accidents de thrombose veineuse un peu particuliers, qui avaient l'air sévères. Dans un tel contexte, je pense que c'est pas honteux, et c'est même responsable, on va dire les choses positivement, de faire pause et de dire qu'on se donne les quelques jours pour savoir ce qui se passe. Je pense que si cela n'avait pas été fait, sans doute certains auraient reproché un manque de prudence.
Nos voisins
voilà, aujourd'hui, on a une réponse.
Oui, nos voisins belges, qui sont pas des dingons, ont été visiblement plus courageux que nous. Ils ont continué de protéger leur population. Et on a, comment vous dire les choses, on a l'impression, une fois de plus, que nous sommes confrontés à des ouvertures de parapluie permanentes. Il n'est pas un spécialiste sérieux qui envisageait que ce vaccin soit réellement dangereux, non?
Non, mais on est...
Merci de dire la vérité.
Non, laissez-moi finir ma phrase. Non, mais, j'ai commencé à dire. On n'a jamais de certitude. On est dans un monde quand même de la médecine en pleine évolution. Enfin, une nouvelle maladie, de nouveaux vaccins. Donc quand même, il faut être vigilant. Alors, il se trouve qu'en France, on a une bonne pharmacovigilance et heureusement, il est bien qu'il en soit ainsi. Réfléchir, examiner les choses pendant 3 jours, en plus, vu à l'échelle de la campagne, ça me rappelle les discussions qu'il y a eu, les polémiques de début janvier. On a dit, allez, la France est en retard dans son programme de vaccination.
Oui.
Sauf que si on prend un tout petit peu de distance, ce qu'on peut faire aujourd'hui, on vaccine largement aussi bien que nos voisins européens. Donc ce sont des discussions, à mon avis, sans intérêt. Pardon de dire cela,
mais
c'est évidemment pas personnel. Mais juste sur des aspects ponctuels, mais avec un tout petit peu de distance, ça change pas fondamentalement le cours des choses. L'important, c'est l'analyse et que cette analyse ait conduit à se dire on peut reprendre et on y va.
Je ne vous parle pas des conséquences des 3 jours de retard, bien qu'il puisse y en avoir pour un certain nombre de ceux qui n'auront pas été vaccinés, mais de l'état d'esprit que ça génère chez les Français qui ont déjà développé un scepticisme incroyable avec la vaccination.
Je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense que quoi qu'on fasse...
Je suis journaliste, j'incite tous les jours nos auditeurs à se faire vacciner. Vous êtes un grand responsable de ces questions et on vient de leur dire, on les a laissés soupçonner le vaccin pendant 3 jours. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire.
Alors, imaginons que tout ait continué sans changement et qu'en même temps ces informations seraient arrivées. Et c'est très bien qu'il y ait transparence. Je suis un grand fervent de la transparence, que les choses soient connues, mais expliquées, bien sûr, remises dans le contexte. On aurait entendu toutes sortes de critiques et qui auraient conduit, si on se, au-delà des critiques, conduit un, pas les mêmes, mais d'autres Français à avoir des doutes. Donc, bon, voilà, il faut expliquer. Je pense que cette vaccination est absolument essentielle. Il faut la faire de façon convenable et il faut expliquer. Et bien sûr, aujourd'hui, faire en sorte qu'un maximum de Français puissent bénéficier de ces vaccins, puisqu'il y en a plusieurs.
Alors, passons maintenant à la suite. Comment ramener les Français à la vaccination alors qu'on leur a fait peur, qu'on les sait par ailleurs sceptiques? On a une enquête BVA, RTL Orange où 44% des personnes interrogées se montrent disposées à se faire vacciner par le sérum AstraZeneca. 56% sont donc hostiles. Hein. 31% des Français sont totalement opposés à la vaccination. Au pays de Pasteur, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire?
Alors, ça inspire le fait que c'est sûr que la France, les Français, enfin, une fraction des Français sont plus sceptiques à l'égard de la vaccination que ce que nous observons dans les pays voisins. Donc oui. C'est une chose connue, qui était connue avant cette situation. On observe néanmoins une évolution insuffisante, mais une évolution en faveur de la vaccination par rapport à des enquêtes d'opinion datant, de, par exemple, de la fin de l'année dernière ou du début de l'année. Et cela m'inspire qu'il faut poursuivre un effort de pédagogie. Je crois beaucoup, par exemple, au rôle des personnes en contact avec celles qui sont susceptibles, espérons-le, d'être vaccinées. C'est par exemple dans les personnels de santé qui était un sujet, j'espère que ça ne le sera pas trop dans les semaines qui viennent. Vous avez un groupe d'infirmières ou d'aides-soignants, certains sont vaccinés, d'autres ne le sont pas. Les meilleurs ambassadeurs de la vaccination, ce seront les aides-soignants ou les infirmières déjà vaccinées qui vont expliquer à leurs collègues, tu vois, j'ai été vacciné, ça va, et je sais que je vais être protégé et que je vais protéger les autres. Je pense que c'est la meilleure argumentation possible, même s'il faut la répéter, au niveau des médecins, au niveau des pharmaciens, qui ont beaucoup d'impact sur les personnes qui viennent les voir tous les jours, et à tous les niveaux possibles d'information, dont le vôtre. Les médias jouent leur rôle également. Je suis convaincu qu'un effort progressif de persuasion et d'explication dans toute transparence, je crois que les deux sont liés, c'est l'explication en transparence crée la confiance. Donc c'est un processus progressif qui va, évidemment, comme la vaccination va durer encore tout cet été, que tout le long du printemps et l'été, il faut expliquer les aspects de protection individuelle et de protection collective.
Alors parlons maintenant justement du programme de vaccination. Il est extrêmement clair, je rappelle les chiffres cités hier par le Premier ministre. 10 millions de vaccinés mi-avril, 20 millions mi-mai, 30 millions de vaccinés au début de l'été. Est-ce que c'est encore possible, Alain Fischer?
Oui, je pense qu'il n'y a pas d'ennui d'arrivée de doses. Comme vous savez, il y a notamment d'ailleurs avec l'AstraZeneca, il y a eu quelques yo-yo dans les livraisons. Donc forcément, le programme de vaccination et son rythme dépend complètement des livraisons de doses. Mais si les livraisons de doses suivent ce qui est prévu, ce qui était signé dans les contrats, ce qui est important à rappeler au niveau de la communauté européenne.
Les contrats engagent, bien entendu.
Les contrats engagent. C'est possible. Moi, j'ai une façon un tout petit peu différente de dire les choses, mais ça revient. Mais fondamentalement, c'est la même chose. C'est juste une autre présentation. C'est de dire que la première étape, c'est de vacciner un maximum de personnes vulnérables, fragiles, de par l'âge ou de par la maladie, plus les professionnels de santé pour des raisons évidentes. Et cette étape-là, elle doit pouvoir être bouclée pour la fin du mois de mai. Et qu'à partir donc de début juin, devrait pouvoir commencer ce que je considère être une seconde étape, qui rejoint la discussion précédente sur la confiance et la nécessité de persuader, de vacciner toute la population, des gens disons en gros de moins de 50 ans, les adultes de moins de 50 ans, ça fait beaucoup de monde, mais qu'il va falloir vacciner absolument, donc les vacciner cet été, parce que s'ils ne sont pas vaccinés, nous n'atteindrons jamais une immunité de groupe. Et on sait que dans le contexte des variants qui nous ennuient en ce moment, cette immunité de groupe nécessite de vacciner beaucoup, beaucoup de monde.
Pour préparer notre rentrée de septembre avec, on l'espère, un retour à une vie nettement plus normale.
Donc il y a deux étapes clés, mais qui sont, je pense, tout à fait réalisables dans le contexte de livraison de vaccins.
Pensez-vous que des doses supplémentaires soient nécessaires pour les 16 départements qui sont reconfinés?
Écoutez,
des opérations spécifiques.
Il y a eu des actions spécifiques sur un plan qualitatif en Moselle il y a 3-4 semaines, à Dunkerque et à Nice. Après, là, ça atteint un nombre de personnes à traverser une vingtaine de départements qui est très élevé. Donc, une bascule supplémentaire de vaccins vers ces départements commencerait à avoir des conséquences pour les autres. Donc je ne suis pas absolument sûr qu'il faille sortir de la règle principale actuelle, mais il peut y avoir des ajustements de détails en fonction de situations particulièrement élevées. Mais sinon, quand même, garder la priorité à l'âge et pour certaines personnes à la maladie reste, à mon avis, quand même l'élément essentiel.
Je reste sur le long terme. Peut-on se passer des vaccinodromes ? Et est-ce que c'est un tabou ? Et si oui, pourquoi ? Tous les pays qui ont réussi leur campagne de vaccination ont utilisé à un moment ou à un autre des vaccinodromes.
On vaccine au Vélodrome, à Marseille.
C'est drôle, mais ça ne suffit pas à l'échelle du pays.
Évidemment. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des centres de vaccination de grande taille en France. Ouais. Il y en aura plus en avril. Il faut recruter les personnes pour vacciner aussi. C'est toute une logistique complexe. Ce que je veux dire, globalement, la solution, ce n'est pas un type, un système de vaccination, une modalité de vaccination, c'est l'arsenal. Donc l'arsenal, ce sont les médecins généralistes, ce sont les pharmaciens, ce sont les médecins du travail, ce sont des infirmiers, par exemple, qui se déplacent au domicile des personnes à mobilité réduite, ce sont des centres de vaccination, petits, moyens, grands. C'est tout ça. Et on y arrivera en additionnant toutes les possibilités de vaccination, et non pas une seule, il faut se focaliser sur rien. Donc voilà, en ouvrant toutes ces possibilités qui existent et qui vont s'amplifier en termes de centres de vaccination, on doit pouvoir y arriver, parce qu'effectivement, il faut vacciner beaucoup en avril et en mai, etc. Mais les doses vont être là pour le faire.
On doit pouvoir y arriver, et vous nous avez dit que si on respectait les contrats, les commandes qui ont été signées, nous aurons les doses nécessaires pour en tout cas aborder l'été, puis la rentrée dans de meilleures conditions. Merci infiniment Alain Fischer d'avoir pris la parole ce matin sur l'antenne d'RTL. Vous voulez rassurant, et cela nous fait du bien. Bonne journée à vous.
Merci.
Dans un instant, la météo à 7 jours avec Louis Baudin. Alors, je ne sais pas s'il sera rassurant ce qui concerne la météo.
Si.
C'est très bien.
Tout va bien.
Dans RTL Matin, dès 9h, laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Steven Bellery.
Je
ne
sais pas si tu le sais.
On l'a découvert avec Louise Attax. Il a façonné l'ultime disque de Bachung. Gaëtan Roussel tutoie la grâce, la colère, l'épure et chante avec Alain Souchon dans son nouvel album. Est-ce que tu sais ? Demande-t-il sur la pochette. On lui demandera à 9h. Il sera notre invité en direct dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
La météo à 7 jours, tout de suite avec vous Louis Baudin. Alors c'est intéressant parce qu'il se passe plein de choses, oui. C'est mouvant, on peut voir un peu de tout d'ailleurs. C'est l'interprétation qu'on en fait comme d'habitude, c'est le regard qu'on jette dessus.
Exactement, et vous allez voir qu'effectivement j'ai une petite déconvenue à vous raconter. Parce que effectivement, je vous avais dit quoi ? À partir de ce week-end, j'ai dit, hop, c'est le retour d'un temps sec, très ensoleillé,
a priori.
Avec du froid, ça voilà, j'avais bien dit, des gelées demain matin, notamment assez fréquentes, assez marquées parfois dans les régions du nord et du nord-est, mais au moins avec du soleil. Alors ça, c'est vrai pour demain. Je ne change pas ma prévision. Temps sec, ensoleillé, après encore un peu de neige là qui traîne ce matin dans les régions du sud-ouest ou encore dans le nord-est. Tout ça va disparaître en fin de journée pour laisser revenir donc un ciel étoilé, d'où les gelées demain matin et le soleil qui dominera tout au long de la journée. Mais dimanche, j'avais dit encore du soleil. Je vais revoir un peu cette prévision avec dans la moitié nord, sous cet anticyclone qui s'installe, lui, il sera bien là. La grisaille qui va rester un peu bloquée. C'est tout le problème des anticyclones en hiver ou en fin d'hiver, c'est que parfois, ils bloquent un peu l'humidité. Dimanche, je crains que dans la moitié nord, ça reste finalement un peu plus gris. Il n'y aura pas beaucoup de pluie, mais de la grisaille, toujours du froid et le soleil pour le sud. Un peu la même chose pour la journée de lundi, mais après je me rattrape, puisqu'à partir de mardi et au moins jusqu'à jeudi prochain, l'anticyclone va résister avec non seulement là le retour du soleil, mais également des températures en hausse. Ah, donc ça va devenir enfin un peu plus agréable, c'est promis, entre mercredi et jeudi prochain au moins.
Cette intégrité vous honore.
Oh, j'essaie. Hein,
on continue d'observer ça. Ouais. Puis l'avantage, c'est que voilà, tous ces changements rendent l'actualité de la météo tout à fait intéressante. Merci. Exactement. Louis.
Merci. Bon week-end.
Bonne journée à vous et bon week-end.
RTL, vous êtes comme ça.
La journée mondiale de la trisomie 21 a donc lieu dimanche. Pour l'occasion, nous mettons ce matin en avant l'initiative d'un restaurant unique à Paris. Le Reflet, c'est son nom, emploie à majorité des personnes atteintes de la trisomie. Le restaurant a rouvert ses portes en janvier dernier pour mettre en place une initiative solidaire, préparer des repas à 1 euro à destination des étudiants. Bonjour Nerissa Emani.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce sont donc des personnes atteintes de trisomie 21 qui cuisinent et qui servent ces étudiants.
Oui, dans la petite salle de restaurant, Ibrahim, 21 ans, a revêtu sa chemise de serveur, c'est lui qui accueille les étudiants.
Donc là, c'est gratin dauphinois et confit de canard. Et on va faire une tarte aux pommes. Et j'ai des petits desserts aussi.
si tu veux, Flamby, Café des Joies.
À ses côtés, Olivier, le responsable du restaurant, coordonne cette opération spéciale deux fois par semaine.
Le message peut être beau aussi de montrer que ouais, des personnes handicapées peuvent aussi aider des gens normaux, entre guillemets. Puis ça nous permettait de remettre au boulot et puis d'aider aussi les étudiants qui sont en précarité extrême.
Grâce aux dons de nombreux partenaires, 1000 repas ont déjà été préparés. Chaque étudiant doit juste réserver sur Internet puis récupérer son paquet. Une première pour Sandra.
Un peu trop gâtée là. C'est une super initiative et puis même ça fait sortir voir des gens aussi. Enfin, il y a un contact humain qui est hyper important et qu'on n'a plus avec les cours à distance et qui pèse. Donc c'est vraiment une super initiative.
Renouer un lien social, c'est le principe de ce restaurant unique à Paris, né en 2019. D'ailleurs, sur 13 employés, 7 sont atteints de trisomie 21.
L'idée, c'est de leur donner l'opportunité d'avoir un boulot ordinaire, dans un milieu ordinaire, une paye ordinaire comme tout le monde. Ils sont tous en CDI. Après, c'est des contrats 20 heures, ils peuvent pas non plus, il y a des petites contraintes, ils ne peuvent pas faire les temps plein comme nous.
Tous ont entre 20 et 25 ans et travaillent de la salle à la cuisine.
Je m'appelle Eurydice, j'ai 21 ans moi.
Eurydice prépare activement le risotto sous les ordres de la chef Sarah.
On est bien ensemble, on travaille bien ensemble, on s'amuse bien et on ne peut pas rester comme ça avec nos salariés sans les voir.
D'ailleurs, depuis son ouverture, à cause de la crise sanitaire, le restaurant a été plus souvent fermé et couvert. Alors, pour conserver le lien, des activités sont organisées une fois par semaine avec toute l'équipe.
La particularité de ce restaurant, Nerissa, c'est qu'en plus d'offrir du travail à ces jeunes, ils peuvent perfectionner en permanence leur apprentissage.
Oui, même si 3 des 7 salariés viennent d'un centre de formation d'apprentis, Eurydice, elle, continue de se perfectionner aux côtés de Fabrice, le chef pâtissier.
Prends ta main comme ça. Oui. Et après, t'appuies et dès que t'as le clac, c'est bon.
D'accord.
Vas-y, essaye. Cette opération qu'on fait vraiment dans la bonne humeur, sans stress, pour eux c'est génial. En fait, ils se sentent hyper bien et ils font beaucoup de progrès.
La chef Sarah a dû s'adapter rapidement, elle qui n'avait jamais travaillé aux côtés de personnes handicapées.
Il n'y a aucune difficulté, c'est génial. Comme dit Fabrice, je ne pourrais plus retourner dans une cuisine normale, maintenant c'est terminé.
Qu'est-ce que vous aimez particulièrement?
Mais tout, la bienveillance, la gentillesse, l'énergie, le désir d'apprendre. C'est une cuisine qui est calme. On est obligé de faire attention, de ne pas s'énerver.
Et Eurydice, t'aimes bien ta chef?
Oui.
Fais attention à ce que tu dis.
Qu'est-ce qu'elle t'apprend?
Faire les plats, faire les entrées et faire les desserts.
Une progression et un bien-être confirmés par Ibrahim.
Je me sens bien, à l'aise, ici au restaurant. En fait, j'aime tout, j'aime la salle, j'aime la cuisine. Et j'aide mes patrons, les chefs, cuisinier, tout ça.
Épreuve que l'intégration est réussie, le reflet permet à Eurydice d'oser viser un peu plus haut.
J'espère de faire le coucou de Top Chef. Donc ça, c'est mon rêve.
Et vous l'avez compris, donc l'objectif pour Eurydice, ce serait d'espérer un jour passer derrière les cuisines de Top Chef.
Top Chef, eh bien pourquoi pas, ça tombe bien, on connaît quelques personnes à M6, on va donc leur en parler. Merci infiniment Nerissa et Mani pour ce bel exemple de solidarité, de bienveillance. Vous êtes comme ça, c'est notre rendez-vous tous les matins. Sur RTL, un reportage à retrouver sur notre site rtl.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40. Ce matin, Isabelle Choquet, vous avez un scoop. La Terre va bientôt se vider de sa population.
Oui, on nous rebat les oreilles avec la surpopulation, la bombe démographique qui menace de nous exploser à la figure. 220 000 terriens de plus chaque jour. 10 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050. Alors les scientifiques, les ingénieurs se creusent le ciboulot pour imaginer des moyens de nourrir et de loger tout ce monde. Mais ce ne sera pas le seul défi de ce siècle, Yves. Car après le pic des années 2050, le scénario s'inverse. Celui du grand déclin, c'est ce que nous apprend le magazine Science et Vie. C'est l'université de Washington qui a mis les pieds dans le plat il y a quelques mois. Selon ses calculs, d'ici à 2100, une vingtaine de pays vont perdre la moitié de leur population. L'Italie, l'Espagne, le Japon par exemple. Une trentaine d'autres pays vont subir des pertes de 30 à 50% tout de même. La Chine tomberait ainsi à 732 millions de citoyens seulement, si on peut dire. Elle serait dépassée par le Nigeria. Et vers la fin du siècle, la Terre compterait encore 9 milliards d'habitants tout de même, grâce à la natalité africaine. Mais ensuite, le déclin serait rapide et inexorable. Alors évidemment, 2100, c'est loin. Mais pour autant, les projections américaines ne sont pas complètement lunaires. Rien à voir avec d'éventuelles pandémies meurtrières, le réchauffement ou la pollution. Non, c'est un simple constat démographique. Partout dans le monde, la fécondité recule. En 2100, la quasi-totalité des pays auront un taux de fécondité inférieur au seuil de remplacement des générations, qui est de 2,1 enfants par femme. C'est le minimum.
Alors voilà,
J'ai fait tout qu'est-ce qu'on m'a dit. J'ai fait comme on m'a demandé 2 enfants,6. J'en ai eu 3, j'ai pas trouvé la virgule. Bon.
Coluche dans les années 70. Ça fait 2 siècles environ que le modèle traditionnel de forte fécondité et forte mortalité a commencé à céder la place au régime moderne. On fait peu d'enfants et on vit vieux. Aujourd'hui, le mouvement a gagné les 5 continents. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête plus. En Iran, par exemple, on est passé de 6,5 enfants par femme au début des années 80 à 1,8 seulement. L'Italie, la Grèce, le Portugal sont à 1,3. C'est même moins de 1 en Corée du Sud. Alors en comparaison, la France, à 1,84, apparaît comme le pays des bébés, plus que certains états du sud de l'Inde.
900 millions de crèvent la faim, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie.
Ça, c'était avant. Hein. Oui. Dans plusieurs pays déjà, le problème, c'est aujourd'hui le déclin démographique. Chaque année, le Japon perd environ 500 000 habitants. En Russie, en Iran, en Turquie, on voit refleurir les politiques natalistes. Alors, face à ce phénomène inédit, les scientifiques sont un peu perplexes et pas forcément très optimistes. Certains affirment carrément qu'on pourrait ne jamais en sortir. Parce que moins de naissances, c'est moins de futures femmes et des femmes habituées au modèle moderne. Il suffit de regarder la Chine, par exemple. La politique de l'enfant unique a été abandonnée en 2015, mais sans effet. Les mentalités ont changé, le pli est pris. Et puis pour inverser la tendance, il faudrait de vraies politiques familiales, des congés parentaux, des crèches. Bon bref, c'est pas gagné.
Non.
Faut-il s'inquiéter ? Peut-être pas. C'est vrai, le dépeuplement, ça signifie qu'on va vers des sociétés de vieux, pas très dynamiques. Les prévisions font peur. Hein. À la fin du siècle, le monde compterait 2,3 milliards de plus de 65 ans contre 1,7 milliard seulement de moins de 20 ans. Mais au 21e siècle, le dépeuplement, ce n'est pas forcément le déclin. Hein. Ce sont des travailleurs mieux éduqués, mieux payés, plus productifs, des progrès scientifiques aussi. Bref, la qualité plutôt que la quantité, si on peut dire. Et puis, surtout, c'est une lapalissade, c'est la fin des problèmes liés au surpeuplement. Moins de pression sur l'environnement, moins de criminalité, moins de guerre même. Et oui, les sociétés vieillissantes privilégient les dépenses de santé plutôt que les dépenses militaires. Ce serait en fait une chance pour la paix, c'est ce que dit un chercheur. Et si la planète se vidait ? Un article très intéressant à lire dans Science et Vie.
Une chance pour la paix, ça laisse songeur. Merci beaucoup, c'était passionnant. Isabelle Jacquet, on se retrouve lundi.
Avec plaisir, bon week-end.
Passez un bon week-end. Dans un instant, nous, on poursuit des moments merveilleux puisqu'on retrouve Laurent Gérard et toute son équipe au grand complet, orchestre de grande qualité. Et puis alors l'inspecteur Laverdin au milieu de tout ça, autant vous dire que cerise sur le gâteau.
RTL, toujours avec vous.
9h30. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jacques.
Bonjour Monsieur Calvi.
Salut la Gouine, repos.
Bonjour Alain Juppé, vous venez célébrer votre nomination à la Commission de Venise ?
Oui, t'as raison, avec le coronavirus en Italie, il y a de quoi se réjouir d'être nommé à la Commission de Venise. Déjà que je me tape les pattes du Conseil constitutionnel, merci bien. Je suis un homme d'État, moi, je suis pas un aide-soignant.
Vous exagérez là, Alain Juppé.
On voit que c'est pas toi qui dois donner le bassin au Conseil constitue.
Non, Dieu merci.
Maintenant, il va falloir que j'aille prendre la température des Vénitiens. C'est agréable, je me sens aimé là. Hein.
Mais non, la Commission de Venise a pour but de donner des conseils juridiques aux États européens.
Oui, alors ils ont fait appel aux spécialistes. Hein, condamné à 14 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Je suis un cadeau en matière juridique. Ils avaient le choix entre moi et Balkany. Bon, ils m'ont choisi moi.
Vous êtes caustique. Hein.
Non, laisse tomber. Je vois bien le truc. On se fout de ma gueule, comme toujours, mais j'ai l'habitude. Je resterai droit dans mes mocassins à glands.
Épidémie du coronavirus, c'est le moment de faire le point avec notre vulgarisateur scientifique préféré, Hubert Reeves. Bonjour Hubert Reeves.
Bonjour.
Bonjour.
Vous savez, en tant qu'astrophysicien spécialiste du cosmos intergalactique, je suis obligé de vous dire que quand une galaxie s'effondre sur elle-même, même si c'est un cataclysme interstellaire, ça fait quand même des jolies photos.
C'est bien possible, Hubert Reeves. Mais quel rapport avec l'épidémie du coronavirus ?
C'est une image venue du plus profond de l'univers pour nous rappeler que dans toute la grande catastrophe, il faut toujours chercher le positif. Si l'épidémie de coronavirus est au stade 3, ça veut dire que c'est la nature qui prend sa revanche sur nous autres, les terriens. La nature, elle n'en peut plus des rassemblements comme les victoires de la musique, les Césars, les matchs de foot, les concerts à Pokora, puis à Games. Puis faut pas non plus oublier qu'avec un masque sur la bouche et une combinaison étanche sur la tête, le candidat de la France au concours de l'Eurovision aura ses chances cette année. La nature a bien fait les choses.
Ah ben oui, écoutez, vu comme ça, merci Hubert Reeves.
Mais le pire, ce serait encore que le coronavirus se mute En Hidalgo-virus.
Ah, encore une nouvelle mutation?
Oui, c'est un virus qui se transmet par les rats. Puis qui va se loger dans la barbe et dans le chignon des hipsters, où il incube pendant des semaines. Il se répand à la vitesse prodigieuse d'une trottinette électrique dans un couloir de bus et il résiste à tout, même au vin naturel.
Ah, je vois que notre ami Fabrice Lucchini nous a rejoint. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Un petit phénomène de société.
Attends. Oui, attends. La Jade. On n'est pas dans le petit truc sociétal du genre « Vous êtes comme ça à 8h30 tous les matins sur RTL. » Tu vois ce que je veux dire, le clown pour les personnes âgées ou fabriquer soi-même sa lessive.
Oui.
Ce que j'ai là avec moi, c'est du très très lourd. Mm-hmm. On est carrément dans l'anthropologie.
Oui.
Tiens la Jade, mais t'es 50 à Flelou. Et dis-moi ce que tu vois ici.
Je les ai. Alors, voilà. Un jeune homme en jupe culotte avec un chemisier à fleurs.
Mmh. Très bien. Et là ?
Une fille en tenue d'aviateur avec des bottes de pêcheur.
Oui. Et ben voilà, bingo, t'es tombé dans le panneau du dossier des Inroc sur la mode gender neutral.
Gender neutral ?
Gender neutral.
Oui,
mais
d'accord.
Tu peux aussi dire gender fluide ou agenre. Autrement dit, sans genre.
Oui, bah, la mode unisexe, vous voulez dire.
Ah, tu vois, c'est génial. Avec la Jade, on l'a hockey boomeuse dans toute sa splendeur. Tu lui dis gender fluide et aussi sec, elle pense à Sylvie Vartan comme un garçon. J'ai les cheveux longs. Mais la mode, gender neutral, c'est pas une mode unisexe, la Jade. C'est zéro sexe, c'est neutre. C'est comme une table ou un tabouret qui n'a pas de genre. Les Inroc t'expliquent que c'est, je cite, une porosité dans la binarité.
Oh là là.
Une ouverture intersectionnelle des vestiaires.
Bon, j'avoue que je suis un peu perplexe, hein, Fabrice. Vous auriez des exemples concrets ?
Bon, je te traduis le truc en bon français parce qu'on est dans les Inroc. Hein. Tu sens que les journalistes, ils tiennent à montrer qu'ils ont pris option franglish à la fac. Hein.
Oui.
Donc en clair, c'est un type qui se révolte contre l'hétéronorme en se déguisant en cow-boy mais couleur fuchsia. Ou une fille qui résiste à la masculinité toxique en portant une combinaison non-binaire qui masque ses formes. Alors je te cache pas que la mode gender neutral a encore des obstacles à franchir. Hein. Mmh. Le professeur de la Sorbonne, Nick Rhys Robert, spécialiste des questions de genre, ça existe, j'invente rien, avoue que les corps posent problème aux vêtements gender neutral, c'est authentique.
Ah bon, mais quel genre de problème?
Cacher une paire de seins dans un Marcel ou un sgeg dans un panty.
D'accord. Bien, merci Fabrice pour cet éclairage. Je crois que notre ami Jean-Michel Apathy a justement consacré son émission Polémicon Polémicon à cette mode neutre.
Oula, beau générique.
Cher ES téléspectateur pointrice, bienvenue dans ce nouveau numéro de Polémicon Polémicon, la première émission de débat inclusive qui prend la température de la société. Aujourd'hui, nous allons débattre de la mode gender neutral, gender fluide, bref, en bon français, de la mode neutre qui transcende les genres masculin et féminin. Pour en débattre, je reçois aujourd'hui Jacqueline Delarey, présidente de l'association Oser le neutrisme, l'écrivain, philosophe, académicien énervé Alain Finkielkraut, président du collectif Taisez-vous pour vos connes. Jacqueline Delarey, vous avez déclaré qu'il faut délivrer la mode de ces arbitraires genrés qui oppriment les sexes.
Allez,
quand vous dites opprime les sexes, vous voulez parler des slips trop serrés ou des corsages trop étroits?
Voilà, alors là c'est typiquement une question de vieux chauve blanc genré qui n'a rien compris à la porosité des genres pour libérer les sexes du gender branding.
Jacqueline Delarey, je vous confirme que je n'ai strictement rien compris à votre charabia abscon. Êtes-vous oui ou non en faveur d'une jupe pour les hommes et du port de la moustache pour les femmes?
Tout à fait, il faut montrer qu'on n'est pas victime de son genre. La mode gender fluide permet de déconstruire les identités sexuelles et de dénoncer la masculinité patriarcale.
Alain Finkielkraut, je vous vois desserrer votre cravate patriarcale. Souhaitez-vous intervenir, je présume ? Madame Delarey, les équivalences entre tenues vestimentaires masculines et féminines n'ont pas attendu les élucubrations en mauvais anglais de vos amis des Inroc pour se pratiquer. Mais il ne s'agit pas pour autant de nier la différence entre les sexes, mais de la respecter.
Justement, ce qu'on veut, c'est oser le neutrisme. C'est aplanir les différences dans un contexte queer et post-MeToo et vaincre les tabous des talents hauts pour les hommes. Passez donc une journée sur des stilettos, monsieur Finkielkraut, pour comprendre l'oppression du genre.
Gna, taisez-vous, pauvre conne. Voilà,
Je crois que nous avons contribué à éclaircir les enjeux de la mode neutre. N'hésitez pas à poster vos essais personnels de déguisement neutre sur notre compte Twitter. La semaine prochaine, nous traiterons du problème des masques contre le coronavirus qui sont tous bleus, masculins, alors que les féministes en voudraient des roses et des LGBTQI plus des arcs-en-ciel. À bientôt pour un nouveau numéro de Polymicon Polymicon.
Mon Dieu. Alors, retrouvez toute l'équipe et Laurent Gérard le week-end à 6h15 avec Christophe Paco, à 7h50 avec Agnès Bonfillon. Vous continuerez de passer de merveilleux moments. Puis on se retrouve, bien entendu, en direct lundi matin avec toute l'équipe. Dans un instant, Cyril Lignac qui nous a rejoint. Bonjour, cher Cyril.
Bonjour.
Va nous donner une merveilleuse recette de scones. Moi, j'adore ça. Hein, les scones, qu'est-ce que c'est? Bon, on vous le dira dans un instant.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Cyril Lignac, rebonjour.
Bonjour.
Les auditeurs peuvent vous écrire, je le rappelle, rtl.fr/participer-er. Et Eliane vous demande une recette de scones. Alors, déjà, il faut peut-être rappeler pour ceux qui ne le savent pas ce que sont les scones.
Alors, les scones, ce sont des petits biscuits. Alors, aujourd'hui, on les mange, c'est vraiment, alors on dit, c'est vraiment typique du Royaume-Uni. On en mange vraiment en Angleterre, au Tea Time, il y a souvent, à chaque fois, les petits scones avec la confiture et la petite crème fraîche.
Tièdes, ils sont tièdes.
Et comme ça, et c'est des, un sablé, en fait, assez croustillant et moelleux à l'intérieur. On y dépose un peu de confiture. Alors moi, quand je suis à Londres, j'y mets toujours de la crème et de la confiture, les deux, mon général. Et comme ça, c'est hyper bon. Là, on a tout ce qu'il faut.
Comment vous faites pour rester aussi mince et beau?
Eh bien, je cours.
Ah, c'est donc
après
ça
le temps.
Très bien.
Et alors, en fait, on m'a posé la question, est-ce que ce sont vraiment des petits pains écossais? Oui.
Oui.
C'est vraiment né en Écosse. Et après, c'est parti un petit peu partout dans les pays anglo-saxons. Alors, on mélange deux... Alors, c'est rigolo parce que c'est écrit deux tasses de farine, parce que c'est une recette anglaise. Sauf que ça fait exactement 250 grammes de farine. Ouais. Ensuite, 4 cuillères de levure sèche. Donc de la levure de boulanger, qu'on mélange un petit peu avec un peu de sel.
Celle qu'on peut demander en petits cubes à notre boulanger.
Exactement, exactement.
Bonjour boulanger, vous avez
bonjour. Un petit peu. Voilà. 3 cuillères à café de sucre en poudre, 85 grammes de beurre, et là on sable tout ça. Mmh. On ajoute l'œuf mélangé avec du lait, on mélange avec la farine et ça nous donne une petite pâte. On verse ensuite le liquide, on fait une boule que l'on laisse reposer. Et ensuite, on étale 1,5 cm à peu près. On détaille à l'emporte-pièce. Et là, on cuit à 220 degrés pendant 15 minutes. Il faut qu'il soit coloré, caramélisé, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
Pardonnez-moi, on laisse reposer combien de temps?
Une demi-heure, une heure. D'accord. De toute manière, les pâtes, plus on les laisse reposer, mieux c'est.
On met ça en hauteur un petit peu?
Oui, on met ça un petit peu dehors. Bon. Ça ira très bien.
Et alors après, un peu de confiture,
après,
un peu de beurre salé.
Un peu de confiture, un peu de beurre. Une pâte à tartiner noisette, moi je l'ai un peu francisée. Des noisettes, on peut les caraméliser, mettre dessus. Mais c'est vrai que c'est vraiment bon avec le thé. Et ce que j'aime, c'est ce mélange de crème et de confiture.
Merci beaucoup pour ce délicieux moment passé avec vos scones, Cyril Lignac. Cyril Lignac, bien entendu, tout est à retrouver sur le site rtl.fr à lundi. Lundi, oui, oui, il est 9h.
Il est content.
Il aime bien. Il adore être ponctuel. C'est merveilleux.
RTL Matin, Yves Calvi.
On retrouve Jérôme Florin pour faire un point sur l'actualité.
Un confinement plus léger, mais un confinement quand même pour 21 millions de Français à partir de ce soir minuit. Et pour un mois, les commerces dits non essentiels devront fermer. Mais il y aura cette fois des exceptions. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement sur RTL.
Les coiffeurs pourront rester ouverts. Il y a un protocole sanitaire particulier qui a été mis en place. Il y a un décret qui va être présenté qui indiquera quels sont les lieux, quels sont les commerces qui peuvent rester ouverts et ceux qui doivent fermer. Il indiquera notamment pour la question des coiffeurs, ils peuvent rester ouverts.
Réaction du président du syndicat des coiffeurs, Christophe Doré.
Écoutez, j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter au plafond, je suis ravi. Ça fait des mois, des semaines que je me bats pour que la coiffure soit reconnue comme un métier essentiel. Eh bien écoutez, ça y est, la coiffure est enfin reconnue comme un métier essentiel pour le bien-être des gens au quotidien. Donc dans ce contexte de détresse, eh ben, la coiffure redonnera le moral aux Français.
Seront également ouverts les libraires et les disquaires. Les nouvelles restrictions concernent tous les départements de l'Île-de-France, des Hauts-de-France, mais aussi la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Déplacement autorisé et sans limite de durée dans un rayon de 10 km. C'est le retour des attestations. Les écoles restent ouvertes, les lycées seront en demi-jauge. La sûreté de l'AstraZeneca confirmée par les autorités sanitaires européennes. Jean Castex se fera vacciner cet après-midi devant les caméras pour donner l'exemple.